Alors, est-ce que c'est parti? J'en ai bien l'impression. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Gloui, les poulpettes et les poulpes. Donc, nous voici pour ce je ne sais plus combientième poulpcast. On doit être autour du 20e. Donc, poulpcast en direct. En direct de la Toca, où il fait un temps magnifique. Donc, pour l'instant, je vais parler tout seul, puisque les personnes qui devaient participer avec moi ne sont pas venues, enfin ne sont pas encore là. Voilà, enfin, que ce soit un rendez-vous virtuel ou un rendez-vous réel, hein, on a toujours les mêmes difficultés avec l'être humain, c'est-à-dire l'arrivée à l'heure, je sais pas comment ça se dit. Enfin voilà. Donc on va attendre un petit peu. Excusez-moi, j'ai un appel. On va attendre un petit peu, voir si ça va peut-être les faire venir. D'ici là, j'ai plein de choses à vous raconter. Donc, ce podcast va être consacré. Ah, je vois qu'il y en a qui sont ready to go. Alors, je sais pas si les gens peuvent. Si on doit inviter ou si les personnes peuvent se connecter directement. C'est une bonne question. Je ne le sais pas. Je vais lui demander par. Il y a Angel Dust. Je vais lui demander. Hop. Donc, sinon, comment on peut faire? On va essayer ça. C'est un peu du fait main. On va voir si les gens peuvent se connecter. Je suis pas sûr. Donc, on va peut-être faire que j'envoie des invitations ou que je vous partage le lien Google+. On va regarder cette sepa. Poum, 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 pif, paf, roulade. J'ai bien l'impression que ça doit fonctionner comme ça. Je vais le partager donc. Sinon, j'aurais pu tenir le podcast tout seul. Hein. Vous savez, ça ne me dérange pas, vous me connaissez. Alors, je vais mettre donc lien Hangout. Voilà. Hop, on rajoute le lien sur la home page de Talk. Et normalement, les gens doivent pouvoir se connecter. Hop, donc, sur la page vers le Hangout. Donc, de quoi allons-nous parler? Eh bien, de JDR virtuel. Alors, comme ça l'a été fait remarquer dans les forums de Talk, il faut préciser, parce que JDR virtuel, il y a donc principe de JDR virtuel, bien sûr, c'est de jouer au jeu de rôle sans être physiquement tous autour d'une table. Et donc ça peut prendre plusieurs formes. Bon, ça prend des formes par internet, hein. Ça pourrait prendre par le courrier ou des choses comme ça, mais ça on s'en fout complètement. Ça pourrait prendre la forme du play by forum qu'on a déjà essayé sur Toc. Ah, je vois que quelqu'un arrive. Allô?
Allô, allô. Est-ce qu'on m'entend?
Ouais.
Bonjour.
C'est qui?
C'est Angel Dust, bonjour.
C'est Angel Dust, t'as pas la vidéo?
Non, j'ai pas de cam, désolé.
Oh là là, c'est faux
Et
ça,
ouais.
c'est parce que tu veux pas te montrer.
Ah.
Ça me fait marrer. C'est pas grave, on expliquera pourquoi il y a des gens qui veulent pas la vidéo.
On peut pas simplement mettre une petite image.
Bah pour
Attends.
l'instant c'est tout noir, donc à chaque fois que tu
Je vais
parles,
voir.
ce sera tout noir.
Je regarde. De toute façon, il y a le temps, hein. On est que deux.
Ah, attends,
Trois. Ouh.
voilà, tu vas voir, attention, ça va venir. Realtek output prendre une photo. Il va prendre une photo de moi. Donc, excusez-moi, je fais quelques réglages. Ça va, Angel Dez? Nous avons Lavo Léo. Allô? Angel Dez, tu m'entends ou pas?
Oui, je t'entends très très bien.
Il n'y a que Lavo Léo que nous n'entendons pas. Bon, je vais cliquer sur moi vu qu'il n'y a que moi qui ai ma tête. Alors, je fais juste un tout petit réglage de sortie pour que... Voilà. N'oubliez pas d'écho. Bah, merci d'être venu. Donc, bienvenue dans les podcasts. Hein. J'essaie de meubler un peu en vous attendant. Lavo, tu nous entends?
Oui, oui, je vous entends, ouais.
Ah, salut. Bah voilà. C'est quoi ton petit nom sur les forums?
J'ai pas de petit nom, je suis pas sur le forum.
D'accord.
Juste quoi.
Ok, non, mais y a pas de souci, hein. Tu sors. Non, je déconne, je plaisante. T'as pas de webcam non plus? Ou alors tu es nu et tu ne veux pas te montrer?
Oui, je suis tout nu, alors on n'est pas.
C'est marrant, c'est internet, on partage tout, et puis dès qu'il faut mettre une webcam, les gens n'osent pas. Bon, merci à tous les deux déjà, on va être trois, c'est déjà pas mal. Donc comme je le disais, mais là ça va être plus sympa que maintenant qu'on est tous ensemble. Donc pour vous le sachiez, hein, c'est rediffusé en live sur YouTube, et ça sera enregistré et tout. Je dis ça, hein, s'il y a des problèmes de droit, je ne voudrais pas qu'il y ait de procès, donc n'ayant pas les moyens de se payer un avocat.
Ouais, je vous
entends. Non, je tiens toujours à le préciser au cas où. Donc, oh, bah dites donc, on est quatre.
Nous sommes j'ai quatre. J'ai pas 30 sur votre forum.
Ah, c'est toi pas qui encore. T'es inscrit et qui n'a pas fonctionné?
Non, je non. Crois pas, non.
En notion, il n'y a pas besoin d'avoir de compte forcément pour participer au podcast, il n'y a pas de souci.
Non, j'ai
Chronomancien.
Super actif, on va dire.
Chronomancien qui n'a pas de webcam non plus?
Non.
Ah, il est timide. Bon, bah, c'est pas bon. On va voir que ma tête.
Ça marche beaucoup mieux avec un lien, hein.
Oui, oui, en effet, je me suis dit, c'est
le
bizarre,
problème
les,
humain,
gens... les gens n'arrivent pas, mais je me suis dit, forcément, les gens n'arrivent pas vu que je n'ai pas fourni le lien vers les Hangouts, très juste. Donc voilà, je présente un petit peu la chose. Donc ce soir, le podcast live est dédié donc au JDR virtuel, et ce que j'essaie de dire en préambule, c'est que, comme ça l'a été remarqué, on me l'a fait remarquer dans les forums, JDR virtuel peut prendre différentes formes. Ça peut tout à fait être du jeu de rôle par courrier épistolaire, mais là on va s'attaquer plus à la version internet, et qui dit version internet dit aussi il y a la possibilité de faire du play by forum. Et non, on va s'intéresser à ce qui, j'irais, va s'approcher, je pense que vous serez d'accord avec moi, ce qui va s'approcher du plus du JDR sur table, sachant que j'ai essayé de définir le... Ah, il y a quelqu'un qui est parti. Bon, je dirais pas bonsoir à chaque fois que les gens s'en vont, hein, ça va être compliqué. Mais ce qui se rapproche le plus pour moi du JDR sur table après expérience, ayant défini le JDR virtuel comme étant l'alternative la plus proche du JDR sans qu'on soit dans la même pièce en même temps physiquement.
D'ailleurs, le virtuel de JDR virtuel, à la base, c'est jeu de rôle sur table virtuelle.
En plus.
C'est à l'origine, le virtuel, c'est ça. C'est la table est virtuelle, mais après, les rôlistes ou le jeu de rôle utilisé, c'est n'importe quel jeu de rôle,
ah,
que ce soit l'appel de Cthulhu, que ce soit du
AD&D, de
l'apocryphe, enfin, on fait à peu près de n'importe quel jeu de rôle. Hein.
Tout à fait. Donc ce qu'on va faire, on va commencer assez rapidement parce qu'on a pas mal de temps, enfin ça dépend, vous faites comme vous voulez. Mais moi j'ai pas mal de temps, donc on peut rester à discuter, à taper la causette, ça marche très bien. On va faire un petit tour de table. Alors on va pas faire concours de poils hein, de celui qui a la plus longue. On va juste donner genre un pseudo, si vous en avez un sur toi ou quoi que ce soit, ou même un pseudo, et puis essayer de dire en quelques mots, assez brièvement, si vous avez des expériences de jeux de rôle virtuel, quel est son type? Est-ce que vous pratiquez depuis 2 ans, machin, tout ça? Vous êtes plutôt gardien, joueur et tout ça? Ou si parmi nous trois, donc il reste Simon Lee et puis toi, Chronomancien, ou alors si vous êtes là pour découvrir, et à la limite, dans ces cas-là, pourquoi vous êtes venu à ce podcast? Donc on va commencer par toi, Chronomancien. Une petite présentation rapide.
Bah donc bon, Chronomancien, c'est mon pseudo qu'on trouve un petit peu partout, que ce soit dans Casus Note ou ou sur mon forum JDR virtuel. Donc bah, j'ai découvert moi le jeu de rôle virtuel il y a 6 ans.
Alors déjà, je me permets de te couper, parce que un, je suis vonve et je coupe les gens, mais vous pouvez aussi vous permettre de me couper. C'est très intéressant. C'est que pour tous ceux qui connaissent pas, ça fait quand même 6 ans, moi je l'ai découvert en arrivant sur JDR virtuel, ça faisait très longtemps que des gens jouaient au JDR virtuel, parce que bêtement, moi je pensais que c'était très récent.
Non, c'est même, et encore, notre forum donc, a été créé il y a 6 ans, mais ça faisait déjà pas mal de temps qu'il y en avait qui jouaient au jeu de rôle virtuel. Après, il y a, comment dire, les systèmes ont évolué, quoi, donc.
Tout à fait. De toute façon, on va les reprendre un par un, ouais, tout à fait. Donc toi, ton expérience, c'est 6 ans, et depuis 6 ans, tu joues fréquemment.
Bah, je joue que de cette manière-là. Ça m'a permis de renouer d'ailleurs avec le jeu de rôle, parce que j'avais, bon, avec la famille, le travail, tout ça, c'était beaucoup plus difficile, enfin, de refaire des parties sur table, quoi, donc de réunir tous les potes et tout. Donc, ça faisait quelques années que j'avais arrêté et j'ai cherché un moyen de refaire du jeu de rôle et je suis tombé sur une personne qui m'a montré ce mode-là, quoi, le jeu de rôle virtuel.
Et depuis 6 ans, je dirais, ça te comble. Et est-ce que tu as eu l'occasion de rejouer sur table réellement ou alors ça ne te manque pas du tout?
J'ai pas particulièrement cherché, mais ça me plairait bien, mais j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas trop la possibilité.
Juste pour avoir une idée, tu joues à quelle fréquence? Grossièrement.
En ce moment, je joue plus trop ces quelques derniers mois, mais sinon, c'était à peu près 2 fois par semaine.
Ouais, quand même. Ok, super. Simon Lee.
Ouais, c'est Angel Dust, voilà.
Angel Dust, le retour.
Voilà.
Hello.
Moi, ça fait 2 ans que je joue par virtuel. J'ai commencé par le dématérialiser asynchrone, donc Play by Forum, essentiellement. Et ça fait 1 an et demi que je suis sur le forum de Chronomancien ancien. Et voilà, je joue depuis 1 an et demi en virtuel avec vocal, et etc.
D'accord. Alors, voilà. On aime bien sur TOC réexpliquer les choses. Faudra se dire, tu vois, synchrone, asynchrone, machin.
Bien
ça.
Sûr. Ouais.
On se les expliquera un peu pour que tout le monde soit bien d'équerre. D'accord. Et t'as eu l'occasion de rejouer sur table ou pas?
Oui. J'ai eu l'occasion de manière assez éparse d'y rejouer.
Ok. Alors, là, une question brute.
Voilà.
De 1 à 10. Si tu devais mettre une note au point de vue, je dirais, plaisir de jeu. JDR sur table, JDR virtuel.
J'hésite pas, on va pas prêcher un convaincu, je dirais 8 sur 10 sur le JDR virtuel, et on va mettre la moyenne pour le JDR sur table.
D'accord, voilà. Juste un petit 5 quand même, parce que il y a des choses qui manquent et tout, c'est intéressant, c'est très intéressant. Super, attendez, nous avons un nouvel arrivant qui s'appelle Marc Yann, tu nous entends?
Marc-Jean, on sait.
Marc-Jean, pardon. je suis désolé. Qui n'a pas de webcam non plus. Marc-Jean, tu tombes bien. T'arrives à la présentation, je dirais, what the fuck, le JDR virtuel pour toi. Tu pratiques depuis combien de temps? Jamais? Pourquoi? Après, vas-y. Marc-Jean. Nous avons perdu Marc-Jean. Marc-Jean. Il est parti dans la tech cave. Marc-Jean, tu m'entends ou pas? Non, il ne m'entend plus, c'est pas grave, il va revenir. Donc, c'est très intéressant. Nous avons, ce qui est un peu dommage, c'est que nous n'avons pas de personnes qui n'ont jamais joué. Alors attendez, je vais finir par mon tour de table. Alors moi, le JDR virtuel, je m'y suis mis récemment. Pour moi, avant de m'y mettre, c'était un peu. Je suis vonve, hein. C'était un peu de la merde. C'était un truc pour geek qui causait même pas sortir de chez lui. Ça devait être tout pourri. Et puis, voilà, quoi. Ça devait être du chat roulette avec des dévins. Et j'ai essayé. Et c'était une grosse connerie, ce que je pensais. Parce que maintenant que je vis en pleine campagne, et moi, je vous dirais que je trouve même des gros plus au JDR virtuel par rapport au JDR sur table. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de me bouger les fesses et de lancer ma première partie en tant que maître. Parce que j'ai déjà joué 3-4 parties avec la communauté JDR virtuelle. Et voilà, ça, franchement, c'est top. Et c'est ce que disait Chronomancien, c'est une super alternative. Moi perso, je serais même plus que, j'irais même plus que toi, Simon Lee, j'irais même plutôt à mettre 9 sur JDR sur, bah, je vais mettre 10 sur JDR sur table parce que c'est ma passion, mais je mettrais un bon 8 pour JDR virtuel quand même. Parce que, j'irais 8 si on arrive à faire sauter les remarques que je ferai comme étant des moins. Après, on a tous des plus et des moins. Mais, alors je sais pas si vous, vous allez me dire si vous allez bien voir quand je partage mon écran. Attention, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran là ?
Ouais, nickel.
Voilà, donc ça c'est mes prises de notes. Comme ça, je dévoile tout. Donc, alors il faut savoir, ouais, si vous ne connaissez pas les podcasts, c'est assez détendu. Hein. On n'est pas là pour se prendre la tête. On peut me couper, il n'y a pas de souci. On peut sortir 2-3 bêtises, il n'y a pas de problème. Donc ça rentre pas dans la private joke et tout ça. Et donc voilà, donc alors c'est complètement structuré de façon cyclopéenne. J'ai essayé de recentrer un peu les questions qui avaient été posées. Bon, je m'y suis pris un peu tard, mais aussi moi ce que j'avais noté de mon côté. Donc déjà, qu'est-ce que le JDA virtuel ? Un gros côté, oups là, je déplace tout. Un gros côté technique. Que faut-il ? Que faut-il pas ? Quel est le nécessaire ? Quel est le superflu ? Combien ça coûte ? Les ressources très importantes. Où trouver de l'aide ? Où trouver des joueurs ? Et ce genre de choses. Et après, j'ai fait une rubrique « Plus et moins ». Après, on pourra compléter hein, selon ce que vous me dites. « Plus et moins », sachant, voilà, on se fera une petite liste de ce qu'on apprécie, enfin, ce qui nous semble les plus du JDR virtuel par rapport à d'autres façons de jouer, et les moins. Donc voilà, si vous avez des remarques, hein, n'hésitez pas à me couper. Donc, on va commencer par « Qu'est-ce que c'est que le JDR virtuel ?» assez simplement, hein, je vous laisserai peut-être vous faire vos définitions parce que vous pratiquez depuis plus longtemps que moi. Le JDR virtuel, pour moi, ce sont finalement des personnes qui vont se retrouver. Le seul lien qui va faire l'unité fondamentale de la partie, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on va jouer tous ensemble en même moment. Hein, on a bien évacué le play by forum ou le play by email. Donc on joue tous en même temps autour de ce qu'on appelle une table virtuelle. C'est assez fréquemment un logiciel qui permet finalement de ce qu'on fait là, de partager des documents, des images, de balancer des messages par chat et ce genre de choses, qui est fréquemment complété pour plus de confort, comme vous pouvez le constater dans les podcasts, par un logiciel de partage de soit vidéo, soit juste du son.
Je voudrais juste revenir sur la vidéo.
Bien sûr.
Elle est de ce que j'ai vu, la vidéo est pour l'instant très très peu utilisée en JDR virtuel.
Pourquoi
c'est un fait dans ce que j'ai vu. Je pense que c'est parce que c'est déjà au fur et à mesure qu'on rajoute toujours des éléments techniques et supplémentaires, ça veut dire déjà faut avoir une bonne bande passante pour avoir donc son logiciel de jeu de rôle virtuel, sa table virtuelle, d'avoir le son, d'avoir en plus du son, enfin en plus d'avoir le vocal par exemple, qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, d'avoir aussi de la musique. Parce qu'il y en a beaucoup qui, on est beaucoup à utiliser de la musique en plus du vocal, donc une ambiance sonore. Donc si à cela on rajoute des images, qui sont échangées sur la table virtuelle, et après avec cela on rajoute de la vidéo, ça surcharge un petit peu tout. Mais bon, il y en a quelques-uns qui le font, mais c'est loin d'être une majorité.
D'accord.
Au-delà de l'aspect purement technique, ça peut être également un choix de dire on ne voit pas la tête des joueurs, si tu veux, parce que on a envie d'identifier la voix du joueur au personnage directement. Donc voilà, c'est une question d'immersion.
Ça c'est très intéressant, mais je vais te donner un plus et un moins. Un plus, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que pour une fois, il n'y a pas de délit de faciès. En table virtuelle, les gens voient pas que je louche. Tu vois, hop, hop là. Donc, ce genre de choses, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le gros problème que moi je lui trouve pour le moment, c'est qu'on ne sait pas si la personne qui est en face de toi n'est pas partie pisser.
Mm-hmm.
Et ce qui est arrivé à plusieurs de mes parties, je dis pas que les gens ont été pissés, mais regardez, moi j'ai un câble sans fil, je peux me balader, et si je veux me casser, Eh ben, vous voyez, je suis en train de jouer, là. Ah oh, ouais. Alors là, je rentre dans le manoir. Et moi, je me suis aperçu que ça sera mon gros moins pour le JDR virtuel, c'est qu'il y a des gros moments de pause. Et le problème d'un moment de pause, quand on n'a pas la vidéo, c'est qu'on ne sait pas si la personne est en train de réfléchir sur les aides de jeu en regardant l'écran, ou si elle est partie se prendre un casse-dalle. Alors après, hein, vous me direz, peut-être que dans le temps, ça se lisse, et puis on connaît
si
les gens et tout ça.
Si je peux me permettre. Si je peux me permettre. Que ça dépend énormément du respect des autres joueurs.
Ouais.
Ça, c'est un truc, malheureusement, tu peux pas. Alors, si t'as la chance de tomber sur un groupe de joueurs investis et sérieux et respectueux, tu n'auras pas ce genre de soucis. Moi, ça me... Après, malheureusement, en fonction des tables, effectivement, au départ, quand tu connais pas trop, tu sais pas trop avec qui tu vas tomber, et tu peux parfaitement d'ailleurs tomber sur des tables qui vont même te déplaire, parce que tu vas pas t'entendre particulièrement avec la façon dont le maître se comporte ou
comme une table d'autres
joueurs. Ouais. C'est un problème que j'élude immédiatement sur la qualité du jeu virtuel. C'est à côté, ça. C'est comme quand tu...
On t'entend pas très bien.
C'est une question de bande passante, je suis absolument désolé, c'est pour ça que vous n'avez pas ma vidéo.
Mais
d'ailleurs.
Fin
de l'intervention.
D'accord. Ouais, de ce que tu dis, ouais, d'accord, ça peut être un problème. Je dis pas que c'est un problème bloquant, mais je dirais que moi, en arrivant dans le monde du JDR virtuel, et puis par défaut, je dirais que j'ai tendance à supposer que mon prochain est un peu fourbe. Il y a des fois où on attend, on le reverra, on repassera dessus parce que ça sera les plus et les moins. Il faut que je tienne la ligne du parti. Donc, qu'est-ce que c'est ? On a essayé de résumer un petit peu. Il y a un gros élément dont je n'ai pas parlé, c'est que le JDR virtuel nécessite une communauté, ou plutôt, je dirais, un endroit où les gens peuvent se rencontrer, monter des parties, parce que bien sûr, du JDR virtuel, c'est pas que vous branchez votre webcam ou votre micro et puis vous attendez qu'il y ait des joueurs qui se pointent. Ce sont des rendez-vous, ce sont des agendas qu'il faut mettre à jour donc par internet. Et donc c'est la chose la plus simple, à moins que vous ayez vraiment votre communauté, que vous puissiez héberger tous vos logiciels, on va en parler après. Le plus simple, c'est d'aller sur les communautés. Alors là, un petit peu de pub, notamment pour les gentilles personnes. Je crois qu'il y a... C'est quoi? C'est Chronomancien et Angel Dust, hein, vous êtes sur JDR virtuel.
Oui, mais Marc-Jean aussi. Hein.
Marc-Jean aussi. Donc hop, un peu de pub, parce qu'en plus j'étais bien accueilli. Si j'avais été mal accueilli, putain, je vous aurais descendu. En même temps, si, il faut donner un avis. JDR virtuel, c'est tout bête, vous tapez, tout le monde voit bien, JDR virtuel dans votre barre de navigation. Ah, j'ai tapé quoi ?
Virtuel.
JDR virtuel, hop, eh ben, le premier lien, ça tombe bien, c'est celui-là. Donc c'est un forum, donc là c'est un des premiers principes quand on demande qu'est-ce que c'est. Donc le principe de l'échange et de l'organisation, vous voyez que c'est plutôt vraiment très bien foutu avec toutes les parties qui sont présentées.
Alors ce que l'on voit là, les bannières, ce sont les campagnes.
Voilà. Toutes les campagnes, pardon. Oui, voilà. C'est vrai que c'est les one-shots et les campagnes.
Voilà. Donc, les one-shots ne nécessitent pas de sous-forum. Donc voilà, ce sont les campagnes où on offre la possibilité à nos MJ. Donc on leur ouvre un sous-forum dédié. Donc ouais. dont ils sont les modérateurs. Et ils organisent leur partie comme ils veulent à l'intérieur. Quoi.
Tout à fait. Et donc par exemple, là on est dans le sujet one-shot. Et c'est là où on peut créer des petites... La preuve, c'est que nous on a commencé par un one-shot qui s'est transformé en campagne à Oakmoon.
C'est le meilleur, je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est de ne pas commencer directement avec une campagne. Il faut d'abord découvrir un petit peu le groupe, hein, les joueurs. Donc, et Virtua JDR, donc, que tu viens de montrer, donc, ce sont nos confrères, nos très sympathiques confrères, qui ont une grosse communauté de relistes virtuelles.
J'ai testé les deux. Je me suis inscrit aux deux, j'ai demandé des informations aux deux, donc je vais vous donner mon avis. Déjà pour une interface, la vôtre, bon c'est du standard, hein, c'est du PHPPP, mais bon, le leur, on galère un peu et puis ça pique un peu les yeux. Mais bon, ça c'est personnel. Par contre, j'avoue que JDR virtuel est plus mûr, plus âgé c'est un jugement de valeur. Je suis Vonve, si j'ai un jugement de valeur à faire, je le fais, hein, c'est bon. Ça n'engage que moi. C'était plus la rigolade quand je suis arrivé sur Virtua JDR et la grosse déconne, la private joke, alors que sur Virtua JDR, tout le monde s'est un peu précipité pour me donner un coup de main et me mettre le pied à l'étrier. Donc, essayez les deux, c'est une bête inscription. Les deux vous répondront, il n'y a aucun souci. Moi personnellement, j'ai préféré JDR virtuel, c'est là où j'ai fait les 3-4 parties que j'ai déjà faites. Donc voilà. Alors sachant que s'il y a un gros plus pour JDR virtuel, ce sont les aides de jeu pour savoir comment utiliser le matériel, notamment faites par Booga.
Non, il est excellent.
Qui est le roi de la vidéo qui est le roi de la vidéo explicative.
On en a plusieurs qui sont très bons. Ouais.
Point de vue tutoriel pour découvrir, vous n'y aurez pas de soucis.
Pour le son et tout, enfin il y a plein d'astuces.
Il y en a un paquet, ouais.
Non, on a la chance d'avoir des membres qui sont très très actifs, quoi.
Et donc, ouais, donc, et attendez, il y en a de nouveau, Sébastien Mur et puis Ladzap. Non, un jeu qui. Bonsoir à vous. N'hésitez pas à intervenir si vous voulez intervenir. Donc,
bonsoir.
Bonsoir. Tiens, toi qui viens de parler, qui est-ce?
Alors, vous m'entendez, hein?
Ouais, impec. Fort et clair. Ah, mais plus là. Plus maintenant. Zut.
Si je peux me permettre.
Allô? Oui.
Ouais. On n'est pas obligé de se fédérer par un site pour jouer en virtuel. Moi, j'ai commencé un groupe de joueurs autour d'une table qui s'était dispersé aux quatre coins de la France et arrivé en fait sur le site fédérateur plus tard.
D'accord. Mais comment vous êtes parti pour des... Comment vous êtes parti pour découvrir tous les outils et tout ça?
J'en avais marre, donc j'ai cherché sur Internet. Je me suis dit, ça doit être possible.
T'as dû galérer un petit peu peut-être au début?
Ah oui, au début, c'était il y a 5 ou 6 ans. Donc effectivement, il y avait peu de choses existantes par rapport à aujourd'hui. Et puis cette fois, puis une jouée, en fait, de force de la pratiquer, j'ai réussi à lui donner même des intonations que j'avais pas soupçonnées au début.
Alors,
la grande puissance, c'est que je n'ai jamais, jamais, jamais autant joué de ma vie que maintenant, grâce à JDR, au virtuel.
Alors maintenant,
réunir.
Je propose une question qui pourra se, à laquelle on pourra répondre plus tard. C'est jouer au JDR virtuel. Est-ce jouer? Je vous laisse réfléchir. Je plaisante. C'est jouer. Je réponds tout de suite. C'est jouer.
Faut faire attention. Enfin, le JDR virtuel, ce n'est simplement qu'un mode de jeu. Enfin, c'est du jeu de rôle. Enfin, voilà.
Tout à fait. Attention. C'est du jeu de rôle, mais ça demande des mécaniques, que ce soit du côté joueur ou, je dirais, plus du côté maître, qui sont un tout petit peu différentes, quand même.
On peut avoir plus de boulot. On peut avoir beaucoup plus de boulot en tant que MJ.
Le boulot, les règles. Par exemple, nous, sur Hawkmoon, on est parti sur des règles assez complexes. Et personnellement, moi, je me suis aperçu que ça matchait pas avec le JDR virtuel, où faut, à mon avis, ce soit assez fluide. Il faut pas que les gens aient 50 onglets d'ouvert sur les règles avec des PDF de partout.
Donc, je pense de ça du jeu de rôle en général. Hein.
Oui.
Que ça soit fluide. De toute façon.
Disons que si t'as un problème sur les règles, hop, je me penche à côté de toi, ou alors je te fais un petit truc. Alors que là, il faut avoir partagé les différents PDF que les gens puissent se repérer. Et
d'un autre côté, t'as certains logiciels qui te, comme Fantasy Ground, bon, qui est un logiciel payant, hein, ils sont pas tous payants, ou MapTool, qui permettent d'automatiser certaines ou de gérer certaines règles.
Donc, tout à fait.
Ça peut aussi un petit peu aider.
Là, je te parlerai plutôt des options. Tu vois, moi, j'aime bien avoir sur ma fiche, par exemple, les options de jeu, en combat, des choses comme ça. Mm-hmm. Et ce genre de choses, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, j'irais que là où le JDR virtuel va être un petit peu discriminant quand on parle du qu'est-ce que c'est que le JDR virtuel, c'est que il faut quand même avoir une petite habitude de l'internet, mm-hmm. ou au moins de l'informatique. Disons que Je suis désolé de dire qu'on a une espèce de panier qui filtre, enfin un espèce d'entonnoir, et il reste quand même ceux qui ont un minimum de connaissances en informatique, c'est-à-dire lancer un logiciel, paramétrer deux, trois choses, et ce genre de choses, enfin, des choses assez simples. Si vous êtes arrivé sur... Pardon ?
J'ai des boulets dans mon groupe, voilà. Je te dis, détrompe-toi, j'ai des boulets dans mon groupe,
ouais, mais ça freine.
Pire, des boulets en informatique.
Ça freine pas tes parties ?
Ça partit. Sur la première partie, oui, et puis après les automatismes viennent rapidement.
À force, ouais. D'accord. Mais je dirais qu'il faut quand même avoir un minimum, quoi. Si la personne sait pas brancher son micro et son casque ou un truc comme ça, ça...
Ah bah oui.
De toute façon, elle ne pas être ni de forum, ni Skype, ni de toute façon.
C'est vrai qu'elle sera même pas allée chez Auchan acheter un casque, donc c'est mais, pas très grave.
Mais c'est là où, à la limite, la communauté peut avoir une importance, c'est que on peut trouver donc sur Virtua JDR ou sur JDR virtuel, sur les forums, on peut trouver quelques réponses au niveau technique. Parce que bon, on a tous eu un problème d'adresse IP ou de trucs comme ça. On peut avoir quelques éléments d'information. Donc ça, on peut toujours, on peut en tout cas déjà trouver des solutions à certains problèmes informatiques. Après, on peut aller au-delà de la lecture. On peut poser des questions. Et puis, bon, bah, en général, on tente de répondre, ouais, assez rapidement.
Comme vous voyez, il y a des forums plus techniques. Outils et ressources pour le JDR à distance. Bon, on a fait un petit tour de qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous avez autre chose de générique à ajouter, messieurs ?
Bonsoir.
Bonsoir, Virtua Seb.
Ouais, salut. Ben, j'en profite pour vous couper.
Vas-y. Il faut pas hésiter.
Et pour me joindre à vous. Donc, bonsoir à tous. Et,
bonsoir, rôliste déjà virtuel ou pas ?
Déjà virtuel, ouais, mais le jeu de rôle virtuel, un petit peu, mais, d'après ce que je viens d'entendre, m'a permis de pouvoir rejouer au jeu de rôle, en fait. Je n'y avais pas joué depuis 15 ans, au moins.
Et ça fait combien de temps que tu joues maintenant en virtuel?
Mais maintenant, virtuel, ça doit faire à peu près un an que je dois pouvoir jouer à peu près de manière plutôt régulière, deux fois par semaine, quelques fois avec des one-shots un peu plus.
Marc-Jean, tiens, excuse-moi, je t'avais pas posé la question, tu joues à quelle fréquence avec ton équipe?
Alors, je joue deux grosses campagnes de quelques mètres, ouais. Et sur une campagne en tant que joueur,
et au niveau fréquence,
de planter mon cul de la télé la semaine, ça fait du 3 fois par semaine.
Ouf. Oui, alors le truc c'est qu'il ne faut pas sombrer dans le phénomène MMORPG où toute la vie
stop Et franchement, ça, c'est un loisir, comme quand tu prends un livre ou que tu plantes ton cul devant la télé, ouais, c'est ça, ou devant ton PC.
Ouais, mais c'est ce que je veux dire.
C'est pas du MMO.
Un petit peu, hein.
Justement, je voudrais aussi dire là-dessus, parce que il y en a beaucoup qui confondent, donc MMORPG et JDR virtuel, parce que bon, voilà, c'est sur ordinateur et tout. Enfin, moi, dans mon cas, je n'ai quasiment jamais joué à un MMORPG. Ça ne me tente pas du tout. Je ne ressens pas le plaisir du jeu de rôle dans un MMORPG. Enfin voilà, je n'ai absolument aucune affinité avec les MMORPG, quoi. Donc,
ah non, mais je dis pas qu'il faut en avoir. Mais
mis à part l'utilisation de l'outil informatique, ça n'a pas grand chose, ça n'a rien en rapport.
C'était le but de ma remarque, c'était que des gens qui peuvent être habitués ou avoir des facilités à passer du temps sur un ordinateur, ça peut être un gouffre à temps. C'était juste ma remarque.
Ouais, je crois que c'est sur ça que vous voulez mettre le point, le doigt plutôt, vonve, quoi.
C'est une très facilité à jouer, donc on peut vite sombrer. C'est pas du tout en train de diaboliser, hein. Moi, le premier.
Non, mais après, chacun aime, s'il y en a qui aiment les MMORPG, tant mieux.
Il y en a qui
assimilent le jeu de rôle virtuel à du MMORPG. C'est là où, en fin de compte, où on en voit arriver, bon bah voilà, j'ai fait du World of Warcraft, je voudrais en faire, là, enfin bon, il y en a qui confondent un petit peu, c'est comme il y en a qui confondent le JDR virtuel avec du play by mail. Ouais. Ah, c'est, non, c'est pas du jeu de rôle par forum.
Pour être sûr, le JDR virtuel, pour être précis, c'est en direct, comme on fait là, en ce moment, mais par, comme disent les gens qui s'y connaissent, par vocal, c'est-à-dire par voix et par oreille, par son.
Et c'est par texte, ou par texte uniquement.
Ou uniquement par texte. Mais bon, là, c'est quand même moins sympa. Enfin, je trouve. Et donc, on partage finalement, c'est un peu comme si on mettait une webcam au-dessus de la table d'un JDR classique. Et que vous pouviez tous mettre vos mains comme ça. Hop, 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 hop. Et puis, on partage les aides de jeu et on fait les GD et tout le monde les voit. Ou alors, c'est que le maître qui les voit et tout ça. Donc c'est vraiment autre chose. Pour moi, enfin dans ma tête, et on le réexplique, il faut toujours expliquer les choses qui paraissent claires. Ce n'est pas du tout du Mumurperg, chose auquel j'ai beaucoup
encore. Pour revenir au sujet, mon cher Von, ça m'empêche pas d'avoir une vie de famille, d'être disponible le week-end pour les miens, d'avoir un travail et une vie sociale.
Parce que quel est le gros intérêt? Et là, je vais dans ton sens, Marc. Quel est le gros intérêt, notamment, et on reviendra sur les plus encore, mais c'est que le JDR virtuel se met très très vite en route. Il n'y a pas besoin d'acheter des PIMS, d'acheter du petit orange, de sortir la belle-mère, de sortir la femme, les enfants et tout ça de la pièce. Vous voyez, moi j'ai un casque. Il y a des gens qui sont en dessous, là, dans les autres pièces du bâtiment. Et c'est quelque chose qui se met très très facilement en route. Un rendez-vous à 20h pour une partie jusqu'à 0h, ben voilà, ça commence à 20h, ça finit à 0h, et puis vous n'avez pas besoin de rentrer chez vous la nuit, dans le noir, ou alors s'il y a de la neige, ou alors s'il fait froid, et des bêtes hurlent dehors, enfin voilà. Il y a un côté très très facile qui permet justement de ne pas avoir une perte de temps avant, une perte de temps après, et ce genre de choses.
Est-ce que je peux t'interrompre,
Vauve? Bien sûr, alors là, aucun souci. Alors,
j'en profite pour me présenter, donc la ZAP. En fait, ça fait plusieurs années que j'ai pas joué, et en discutant avec des amis il y a pas longtemps, s'est présenté éventuellement l'éventualité que je maîtrise à nouveau du jeu de rôle,
ouais.
Sachant que voilà, j'ai 37 ans, 38, et que maintenant, c'est ce que tu dis en fait, c'est que je dirais que les contraintes peuvent finir par phagocyter un peu une partie de jeu de rôle ou voir une campagne.
Ouais.
Entre les mômes, le boulot, les retards, toutes ces galères là. Et en fait, j'ai vu sur ce forum, sur Toc, qu'il était fait mention du jeu de rôle virtuel, chose que j'aurais pas du tout envisagé auparavant. J'ai pas testé.
Cool, quelqu'un qui en a pas fait encore.
Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas joué de à Cthulhu, ça fait très longtemps que j'ai pas maîtrisé, et voilà, bon, pour l'instant j'étais parti sur du réel.
À la fin du podcast, tu lanceras ta partie.
Pas forcément, non, j'aimerais bien participer.
Non, ouais, je pense qu'il faut, la première chose c'est de ou être spectateur un minimum, mais le mieux c'est de participer à un one-shot. Je pense que c'est la première approche quand on découvre, pour découvrir le jeu de rôle virtuel, c'est ça, c'est peut-être pas s'attaquer tout de suite à la masterisation. Il y en a qui le font, hein, mais bon, c'est quand même plus simple d'abord de participer dans un petit one shot et pour découvrir les outils.
Pour découvrir et appréhender les outils.
Tout à fait. Le gros intérêt de ce que tu dis, Chronomancien, dans le qu'est-ce que c'est finalement que le JDR virtuel, c'est autant moi j'ai toujours détesté et puis je refusais que des gens viennent à mes parties de jeu de rôle réelles sur table et pour regarder, parce que je trouve ça dérangeant pour les gens à côté et tout ça. Autant moi mon arrivée sur JDR virtuel, on m'a proposé, j'ai demandé si je pouvais être spectateur, c'est-à-dire que vous vous connectez à la partie, vous entendez ce qui se passe, mais vous, par exemple, vous coupez votre micro et vous suivez ce qui se passe, vous êtes autour de la table comme les autres. Et c'est vrai que c'est le meilleur moyen. Alors après, c'est comme tout, hein. On peut tomber sur la top partie ou le jour où le maître il est un peu flappy, ce genre de choses. Mais en effet, pour au moins, je dirais savoir, parce que ça peut être un concept que vous imaginez pas comme ça, n'hésitez pas, sur les deux communautés qu'on a citées, de vous inscrire et de dire, ah voilà, j'ai vu qu'il y avait une partie de Cthulhu, est-ce que je pourrais venir en tant que spectateur? Je sais pas s'il y en a qui refusent. Moi, quand j'ai demandé, on m'a aussitôt dit oui. Et donc finalement la première partie j'étais spectateur, la deuxième partie j'avais été aussi spectateur sur Virtua JDR, et puis la deuxième partie finalement j'étais joueur en one shot. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour du qu'est-ce que le JDR virtuel. On a bien compris que c'était pas par la poste, pas par les forums, que c'était pas un MMORPG, donc il n'y a pas besoin d'acheter un truc chez Ubisoft ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de manette de jeu, que c'était voilà, que c'était pas play by email, et que c'est du play by ordinateur et sur table virtuelle.
Et donc, attends, c'est non seulement ça, mais c'est complété par éventuellement une partie en dehors des sessions jouées des jeux, ce qui est alors, un plus indéniable.
On n'a pas compris ta dernière phrase.
Ouais, bah c'est une question que j'allais poser justement, c'est de savoir s'il y avait des gens ici qui faisaient alterner des parties sur table avec des parties avec un même groupe de joueurs hein, qui alternent des parties à la fois sur table et en virtuel. Est-ce que donc, c'est pertinent ou pas?
Toi, c'est ce que tu as fait, Marjan?
Non, ce que je disais, c'est... Alors, je suis désolé qu'on m'entende très très mal.
Mais tu joues avec cette connexion-là?
Alors...
T'arrives à jouer?
Si tu veux, sur Skype, nous avons une connexion parfaite. Système de Google qui merdoie.
Bon, oh, c'est facile, ça. Moi, personnellement, je vous entends fort et clair et j'entends les autres fort et clair. Mais bon, on va dire que c'est Skype. Hein. Mais
je disais que le jeu sur table virtuelle est efficacement par une partie qui peut aussi se jouer via et qui fait un complément très intéressant.
Quand on, par exemple, quand on peut pas se réunir avant un certain bout de temps en réel.
Pas forcément. Je vois souvent mes joueurs discuter en partie entre eux, s'ils vont faire, ce qu'ils ont récupéré, des récaps, des.
Ça, c'est pendant une, mais ils font ça par mail ou ils font ça par chat, par vocal.
Via le forum.
Ouais, mais enfin là c'est pas lié au JDR virtuel. Les gens peuvent tout à fait échanger autour d'une partie sur table.
Oui, ceci dit, c'est un con. Se fait.
Qui englobe finalement le JDR virtuel peuvent être des outils qui permettent de poursuivre la partie entre deux séances.
Parfaitement. Si, par exemple, tu te connais avec...
Ouh là là là.
Le forum de JDR... ouais. Oh là là. Hop.
C'est galère. Hein.
La parole aux autres...
Je fais des phrases des phrases courtes. Oui. Parce que c'est super galère.
Ou alors, c'est peut-être qu'il a bu, parce que...
Ouais, non, non. Ouais,
il fait son argent, c'est pas improbable.
C'est un petit côté son de Migo, un peu.
C'est parfois ça descend par écho. Donc,
pour revenir du coup à la
l'alternative. L'alternative, je pense que c'est une très bonne idée. Et là, tu bypasses en plus un des problèmes que moi j'étais au début, c'est de pas savoir qui tu as en face. Et si la personne, ben voilà, est-ce que tu lui penses qu'elle est vraiment sûre? Est-ce que finalement pendant les parties de jeu de rôle, elle est pas en train de regarder la télé à côté, puis elle répond de temps en temps? Et donc c'est là dans le cadre d'une partie sur table réelle et que tu alternes parce que par exemple il y aurait pas de disponibilité ou alors pour vraiment alterner pour faire les deux en même temps, pour moi c'est tout à fait possible, notamment dans le cadre d'une campagne qui peut être très longue ou des choses comme ça, ou même à un moment donné où les gens sont en vacances ou des choses comme ça, parce que moi j'ai même fait fonctionner les outils de chat vocal sur une tablette et ça marche très très bien. Donc je sais pas si ça répond à ta question, c'était ça ta question? Allô?
C'est à moi qu'on parle.
C'était l'Adzap, mais tu nous entends l'Adzap?
Oui, c'est bon, ça répondait à ma question.
Ça répond à la question, d'accord. Oui. Moi, j'ai pas essayé parce que j'ai de plus en plus de mal à jouer en réel, donc c'est pour ça que je me suis tourné vers le virtuel.
Faut savoir qu'il y en a qui utilisent donc les logiciels de jeu de rôle virtuel pour faire du jeu de rôle réel, c'est-à-dire sur table, avec un rétroprojecteur. notamment pour la partie gestion des maps, la gestion des cartes avec le brouillage de guerre et tout ça. Alors, qui utilisent MapTool ou autre, ces outils-là. Bon, moi je suis pas trop. Bon, à la limite,
pareil,
quand je suis sur table, j'aime bien qu'il y ait, voilà, limite figurines, Velleda, feutre, chips, voilà. Mais j'aime pas trop qu'on radine tout le matos, tout le matos informatique et tout ça. Après, c'est
une question de vue. Cette solution-là, côté MJ, cette dispense. Enfin, c'est pas le même travail, on va dire. Mais l'avantage d'avoir les choses entièrement virtuelles, c'est que tu peux t'adapter directement à la situation, chose que tu peux pas faire lorsque t'as déjà préparé une carte toute prête avec tes figurines, etc. Et d'un coup, les joueurs, ils ont décidé de pas se battre là et à côté. Et merde, j'ai pas imprimé la bonne carte, etc., etc.
Ouais, d'accord. Concrètement,
d'un point de vue purement matériel et technique, c'est très simple, je trouve, d'utiliser ces outils, quoi.
Alors, en plus, je dirais, pour répondre encore plus à ta question, la ZAP, c'est que tu peux faire les deux. Imaginons, tu joues avec une équipe de 4 personnes. Il y en a 2 qui partent au Québec. Ah, c'est pas de bol. Et par contre, les 2 autres restent. Et tu peux encore jouer avec eux sur une table réelle. Eh ben, tu peux tout à fait, via partage sur ta télé ou quoi que ce soit, te mettre autour d'une table avec les deux premiers, et puis mettre un ordinateur au bout de la table avec les 2 autres. Et ça, je sais que je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais il y en a qui l'ont fait. Ça, et ça marche très bien. C'est-à-dire que voilà, si t'en as un qui s'est expatrié, puis tu dis merde, c'est la fin des masques de Nyarlathotep, on ne peut pas le faire sans lui. Eh ben, tu peux le faire quand même via cet outil-là. Et sachant que grâce à Toc et à plein de sites, on te fournit les aides de jeu déjà en numérique. Hop. Et c'est aussi facile que le profond dans la baignoire. Donc en effet, on peut faire un peu de tout. Et comme on va vous le montrer dans pas longtemps, parce que je vais essayer de partager mon bureau pour que vous puissiez voir l'étendue de ces outils, car quoi? Je fais une superbe transition. Forcément, hein, quand on est que par la parole, on fait vachement plus gaffe aux fautes de français aussi. Donc, ma superbe transition, c'était pour vous dire que nous allons passer un petit peu à la technique. À la technique, que faut-il pour commencer le JDR virtuel? Alors, les fondamentaux, il faut un ordinateur, ça paraît con, mais non, ça l'est pas complètement. Et une connexion, comme vous le dira Marc-Jean, mais on l'entendra pas tellement parce que ça hache, une connexion à peu près potable. Alors, ne croyez pas du tout...
Je suis d'accord.
Bizarrement, il est d'accord. Alors, il faut pas croire que là, moi je suis sur la fibre, hein, je suis dans le fin fond des Yvelines, j'ai une connexion ADSL qui est pas plus que ça. Le seul truc, c'est que comme je m'y connais un tout petit peu en informatique, je sais que je peux, enfin, je sais ce qu'il faut couper pour être sûr que ma liaison ne serve qu'à ma partie de jeu de rôle. Très honnêtement, que par la voix et si l'échange de plans et tout ça se fait sans des images énormes, je sais pas ce que vous en pensez les autres, si vous avez déjà eu des blocages dans les parties, mais une bonne ligne ADSL me paraît tout à fait suffisante.
Tout à fait. Je rajouterais même que, pour toi, le vocal m'a l'air indispensable au niveau donc du drone virtuel, alors qu'on peut, il y a beaucoup de parties qui se sont faites, ou qui se font même encore actuellement, uniquement en texte, du chat texte. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, au niveau ambiance, j'ai fait des quelques parties, c'était vraiment excellent. Il y avait pas, bon, c'était pas que du chat texte, parce qu'il y avait des fois aussi une bande son qui était gérée derrière, mais c'est un petit peu comme si on oublie rapidement le texte, enfin on oublie rapidement qu'on est devant l'ordinateur, c'est un peu comme si on lisait un livre qui se déroule au fur et à mesure, mais dont on peut modifier l'histoire. Et au début j'ai découvert le jeu de rôle virtuel comme ça, hein. C'était j'utilisais simplement que MapTool au début, ou alors c'était Rollistic, MapTool, et ou même IRC, quoi, MIRC, j'avais commencé, avec un script de pour faire des lancettés, et c'est tout, quoi. Il y avait pas de micro, il y avait pas de webcam, rien du tout, quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jeu de rôle virtuel.
Moi, personnellement, enfin, un minimum quand même, parce que, enfin, pour moi, le son, c'est quand même le... J'aurais du mal que par chat. Déjà, tu vas faire que taper tout le temps.
Ah, là, par contre, là, comme minimum requis, il faut savoir utiliser un clavier. Voilà. Parce que si on met trois plombes, voilà, si on met trois plombes à écrire quelque chose, forcément,
parce que on peut pas s'interrompre, quoi. C'est-à-dire que quand vous commencez à taper, et si vous voulez faire une action, et si l'autre personne est en train de faire la même action, vous faites des lettres, des lettres, des lettres, des lettres.
Après, il y a peut-être aussi une organisation. Genre, le MJ peut aussi essayer d'organiser un petit peu ses parties, ses tours, ou leur demander à chacun, à chaque personnage, ce qu'il fait.
Voilà. D'accord. Il y a une organisation à avoir, ouais, tout à fait. Voilà. D'accord. Donc on dit un ordinateur avec une connexion à peu près potable. Je sais pas d'ailleurs s'il y a des benches sur JDR virtuel en disant, parce que par exemple il y a des sites comme Speedtest qui vous permettent, je vais vous montrer ça, hop, je partage. Hop. Il y a des sites qui s'appellent speedtest.net, je crois. C'est ça. Qui vous permettent de tester votre bande passante. Je sais pas s'il y a des ABAC en disant sur JDR virtuel en disant il vous faut à minima, non je pense pas, à minima ça pour pouvoir bien jouer.
Bah non, parce que enfin je te dis comme il y en a peut-être, je pense qu'il y a peut-être un quart des parties qui se fait en mode texte, et pour jouer en mode texte on n'a pas besoin de bande passante, enfin voilà.
Donc, ok, donc on dit donc un ordinateur. Bah si vous jouez en mode texte, des doigts. Si vous jouez pas en mode texte, moi perso ce que je vous conseille quand même, plutôt un micro. Donc un micro, on va dire
un casque micro,
excusez-moi.
C'est juste que c'est plus simple qu'un micro avec des balles, faut que quelqu'un en a un effet Larsen et tout. Enfin ça,
ouais.
Ça risque d'être, voilà. Un casque micro, c'est quand même un petit peu plus simple. Il y en a qui ont un micro
avec les effets Larsen, ça peut être pas terrible.
Voilà. Ouais. Ça peut être sympa. Ouais. Faut donc tester un Marc Jean avec un effet Larsen, ça peut être.
Non, avec l'écho, ça va être la cata. Donc un casque micro, alors soit vous en avez, soit vous en achetez un. Alors, moi j'avais essayé les petits casques, je sais plus si je l'ai, vous savez, le petit casque avec un petit support comme ça, là, un peu tourné derrière les oreilles. C'est souvent de la merde. Hein. Que ce soit chez Logitech et tout ça, vous savez le truc avec le bitonio un peu flexible, là, avec la petite mousse qui finalement ne fait pas grand chose sur vos postillons. Moi j'ai opté pour un truc pas excessivement cher. Je fais de la pub pour Logitech, qui est pas mal parce que il est sans fil et il se recharge sur USB. Donc c'est assez pratique. Ça vous permet de tourner la tête très rapidement sans mourir étouffé dans un câble. Et comme il se recharge sur USB, vous n'êtes pas obligé d'acheter des monceaux de piles et de détruire l'environnement. Je sais pas si vous avez des conseils, les grands pratiquants là sur les casques et les micros.
Bah moi je les bousille assez souvent, donc moi je pense que je vais en venir au casque sans fil, parce que à chaque fois c'est la connectique qui déconne, quoi. Le fil, à force d'être tiré un peu dans tous les sens, tout ça, au bout d'un moment ça devient infernal. Là j'ai viré le mien hier pour en prendre un autre qui est moins pire, si on peut dire. Mais je pense que le sans fil, s'il n'y a pas trop de perturbation avec ce qui est à côté, enfin. Je sais pas comment il fonctionne le tien, donc voilà. Si
c'est un petit dongle USB, c'est un petit USB que vous mettez.
Sinon, il avait été conseillé, je crois, d'utiliser plutôt les casques USB plutôt que des casques avec prise jack. Bon, moi personnellement, je n'ai que des prise jack, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'interférences. C'est peut-être lié aussi avec la qualité de la carte son et.
D'accord.
Peut-être des. Enfin, bon.
De toute façon, on va en parler après, mais la plupart de ces forums vous permettent d'avoir des endroits un peu où vous pouvez arriver et puis vous écouter. Comme ça, vous faites une idée si vous l'arsenez ou pas, ou alors des choses comme ça. Donc on a le PC, on a la connexion Internet, on a le casque. Et point de vue matériel, c'est un peu tout ce qu'il faut. Il faut un petit peu d'eau si jamais vous avez soif, comme ça vous n'êtes pas obligé de vous déplacer et avoir un sale bruit de robinet au fond de la salle. Et maintenant, on va parler un peu de ce qu'on va mettre sur l'ordinateur. Alors, on m'a dit qu'il y en avait un des logiciels qui ne fonctionnait pas sur Mac. C'est Rollisteam là.
Rollisteam. C'est Rollisteam. Rollisteam marche bien et Rollisteam, je l'ai installé, mais.
C'est lequel qui est plus développé?
C'est Rollisteam qui n'est plus développé. C'est Rollisteam, c'est le logiciel d'origine. Et Rollisteam, c'est un fork de Rollisteam qui a été repris par une nouvelle équipe, on va dire.
Et donc celui qui tourne sur Mac?
C'est Rollisteam, c'est l'ancien.
D'accord. Donc,
c'est même relativement compatible Rollisteam et Rollisteam. Je crois qu'il reste compatible les deux, même s'il vaut mieux toujours utiliser la même version. Mais bon.
De toute façon, on va le voir, mais de toute façon, pour que vous puissiez jouer à la partie, il faut avoir le même logiciel que ben, les autres personnes de la partie, ce qui est un peu normal. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir installer sur votre PC ?
Alors, ceci dit,
oui.
Ceci dit, il y a payant. Et le confort de jeu est franchement, c'est le jour et la nuit.
Tu parles de Fantasy Ground ?
Oui. Ouais, ouais.
Bah, de toute façon, on va les énumérer. On va les
une fois
énumérer.
Qu'on a goûté, on peut pas. Ouais, ouais, ouais.
On va les énumérer tout à fait, mais là c'était pour se dire, pour une fois, pour la plupart, on va dire, pour plus de 70%, ils fonctionnent sur PC et Mac, donc pas de ségrégation. Pour l'avoir testé, il faut pas un PC de, enfin un ordinateur de folie, hein. Faut pas un dernier cri machin. Franchement, c'est pas excessivement gourmand. Il faut pas non plus le PC qui a 10 ans, hein. C'est un peu compliqué. Mais franchement, ça tourne plutôt bien. Et donc, on va vous parler de ces quatre outils que j'ai notés. Enfin non, on va plutôt vous parler des autres outils avant, comme ça on finira par cela, parce qu'il y a plus de choses à dire. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que vous installiez ? Il va falloir que vous installiez, à moins que vous le fassiez par chat, et dans ces cas-là, ce qui était cité, c'était des outils de chat dans le genre MIRC. Si vous connaissez pas, c'est un outil une sorte de chat communautaire qui a eu ses heures de gloire il y a de cela une quinzaine d'années. Une sorte de chat où vous pouvez créer ce qu'on appelait des channels et ce genre de choses où, pour vous retrouver. Et c'était que du texte.
Et très moche.
C'était très moche, c'était l'interface assez basique. Après, vous avez tous les outils d'échange communautaire, ce qu'on va dire comme Skype, comme les outils de Google, comme tous les outils qui vous permettent de chatter à plusieurs. Attention, hein, il faut que vous puissiez être plusieurs sur un même chat. Donc, sachant que moi, préférant le côté vocal, là, le choix va se restreindre. Je dirais qu'on a trois grosses alternatives. La première, c'est comme vous l'avez vu, Marc-Jean en est très fan, c'est Google. Le grand méchant Google qui est en train de tout indexer ce qu'on est en train de dire, qui va envoyer des méchants. Après Prism, ça va être l'affaire TOC. Donc, la Google. Google étant pas celui qui pour moi est le plus terrible, hein, niveau de chat et tout ça. On va passer donc au suivant qui est Skype, le grand méchant Microsoft. Skype, ben c'est le plus facile parce qu'il est assez connu dans les familles et vous l'avez peut-être déjà installé sur votre PC si vous l'avez acheté chez Auchan ou chez Leclerc et qu'il était peut-être installé dessus. C'est ce qui vous permet de voir mamie qui est à l'autre bout de la France ou alors les petits-enfants de votre grande sœur. Skype permettant donc l'échange vidéo et aussi vocal et le chat. Il fait les trois. Sachant que je crois qu'en groupe, la version de base, elle permet d'avoir plusieurs vidéos. Oui, c'est vrai, oui, pardon, c'est l'enregistrement qui est limité, je crois. Ouais. Ces trois outils-là sont complètement gratuits à l'installation comme à l'utilisation. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, si je dis pas de bêtises.
T'as pas dit le troisième ?
Le troisième, c'est celui qui est le plus utilisé. Il nous vient du monde des geeks et des joueurs de MMO notamment et de FPS et ce genre de choses online. C'est TeamSpeak. TeamSpeak qui est un outil gratuit. Moi je l'aime bien, c'est aussi pour Skype. Je l'aime bien parce qu'ils ont des versions portables. Parce que moi j'aime pas installer plein de logiciels sur mon ordinateur, parce que comme je le réinstalle souvent, si je le tout réinstalle à chaque fois, ça me galère. Alors que là, vous le mettez dans un coin du disque, par exemple D, hein, vous mettez tout sur C, lors de l'OS, enfin Windows et tout, et vous mettez vos outils sur D, comme ça quand vous reformatez le C, vos outils restent avec les paramétrages et tout, c'est pas mal. Donc Skype et TeamSpeak permettent, on va partager, c'est trop fou l'internet. Même Marc-Jean il va pouvoir ça, bon avec un petit différé parce qu'il a des problèmes de connexion, mais hop, TeamSpeak. En plus vous allez voir comment ça s'écrit. Team comme équipe en anglais et speak comme parler en anglais. Bon ben je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais je pense que c'est le meilleur, non? Pour l'échange vocal au moins.
Oui, carrément.
Tout à fait, ouais. Nous, on a beaucoup utilisé Skype, même à 6, hein, mais TeamSpeak est pas mal, peut-être plus évolué, en effet. Mais nécessite quand même un serveur, enfin voilà. Ça...
il permet d'avoir des salles. Là. TeamSpeak, il permet d'avoir des salles et tout ça, des trucs de fou. Ça, c'est un de mes gros plus pour le JDR virtuel, de créer des petites salles virtuelles. Donc, comme vous le voyez, même TeamSpeak, sur mon écran, il est disponible, vous voyez, oui, c'est vous voyez, il est même disponible sur Android. Donc, ça veut dire que si vous avez un téléphone Android, vous pouvez, je l'ai déjà fait, hein, ma deuxième partie, je crois que j'ai écouté chez JDR virtuel, j'étais sur ma tablette. Et comme vous le voyez, rien qu'à l'interface, hein, par rapport à Skype, vous voyez que l'interface de téléchargement est un peu plus compliquée. C'est assez simple. La plupart du temps, vous allez cliquer sur ce lien-là, parce que vous êtes sous Windows, le lien avec client 32 bits. Quand vous ne savez pas le nombre de bits de votre ordinateur, c'est qu'il en a 32. Si vous les connaissez et que c'est 64, dans ces cas-là, vous le savez. Donc, vous le téléchargez, ça fait un client. Alors, le gros intérêt, c'est que vous voyez en dessous, il y a serveur. Le plus facile, c'est d'avoir celui de la communauté, parce qu'il est plus illimité, et il y a plus de possibilités, mais vous pouvez tout à fait, moi j'ai déjà fait, installer votre serveur chez vous. L'héberger, hein, bah pour votre partie à vous, hein, ça va pas aller non plus très loin, parce que je crois qu'il y a un nombre d'utilisateurs limités en même temps, non? Je sais pas si vous savez.
Ouais, je sais pas.
Parce que nous, vous savez pas?
On a Galenor qui nous,
prête
son serveur, donc il a un bon gros serveur pour TeamSpeak. Donc,
alors par contre, voilà, quand tu dis gros serveur, c'est pour l'hébergement d'un serveur donc qui va héberger TeamSpeak, là il faut commencer à avoir une connexion un peu plus intéressante. Moi la mienne fonctionne très bien. Donc,
mais le serveur communautaire, il n'est pas très satisfaisant en termes de débit de...
Si, alors il est vachement mieux que le mien. Moi, je l'ai fait parce que je voulais tester et puis je voulais pas foutre la grouille sur le serveur de JDR virtuel. Mais sinon, le serveur de JDR virtuel, moi, j'ai eu aucun souci, il répond très vite et les parties se déroulent sans aucun problème. Donc, non, ça c'est juste parce que moi, je suis une saloperie de geek et j'ai voulu tester, c'est tout. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais je pense pas qu'il y ait trop de problèmes sur le.
Non, il y a pas de souci sur le serveur de. De JDR virtuel.
D'accord. Donc, comme on est sur ordinateur et que je suis censé vous montrer, voilà un TeamSpeak à quoi ça ressemble. Donc par exemple, je vais aller me connecter sur JDR virtuel. Hop, hop, hop. Tac. Alors, comment ça se passe? En réalité, ils m'ont donné gentiment, parce que je me suis inscrit sur les forums. Et autant moi qui n'aime pas m'inscrire sur les forums, autant dans le cadre d'une communauté pour faire du JDR virtuel, c'est tout à fait logique. Je me suis inscrit chez eux, j'ai dit que j'étais gentil, ils ont vu que j'étais gentil, et donc ils m'ont autorisé, ils m'ont filé la... Attends, je vais le cacher parce que sinon tout le monde va le voir. Ils m'ont filé la... c'est vrai qu'ils n'auront pas le mot de passe, donc on s'en fout. Ils m'ont filé l'adresse de leur serveur pour que je puisse me connecter. Comme vous pouvez le voir, à l'heure actuelle, on va pas s'y connecter, bien sûr, pour pas déranger, mais il y a déjà, vous voyez, pas mal de monde qui joue. Ce sont les petites pastilles bleues que vous voyez. Alors là, ça a paru simple parce que j'ai cliqué juste sur un bouton. C'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il faut quand même que votre ordinateur écoute votre micro, que vous mettiez la redirection du son dans vos écouteurs. Et puis il y a 2-3 paramétrages, mais après c'est super simple. Il suffit de double-cliquer sur un endroit pour rentrer dedans. Enfin, c'est vraiment d'une simplicité assez biblique. Et à partir du moment où vous pouvez couper le son si vous voulez ne pas parler. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais visiteur. Et donc voilà. Donc là, comme vous voyez, Vonv, c'était mon truc à moi. j'ai fait mes tests. Alors, une chose très importante à savoir, quand on parle de TeamSpeak, c'est que si comme moi, parce que vous adorez la musique, vous êtes assez fan de musique pour dépenser 25$, je crois. Je suis pas sûr qu'on en parlera ce soir, mais vous pouvez vous acheter un logiciel qui s'appelle Virtual Cable. Ça coûte 20$ sur internet. Et comme vous pouvez le voir dans la liste, ça va apparaître normalement. Ah non, ça met pas les sous-menus. Vous voyez pas le menu là que je déroule. Non. Non. En réalité, je peux me connecter en tant que Vonv, moi, ou en tant que musique. Et qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est tout bête, c'est que vous vous connectez deux fois sur le serveur TeamSpeak. Une fois en tant que Vonv, c'est-à-dire que le micro va se déclencher quand je vais parler, comme je veux, ou alors en appuyant sur un bouton. Et en plus, je peux me connecter en étant Vonv Musique, c'est-à-dire que mon petit logiciel d'écoute MP3, je vais le rediriger vers ce petit logiciel que j'ai acheté, et je pourrai gérer la musique en tant que gardien. Et franchement, ça déboîte sa race parce que ça marche trop trop bien. J'ai testé, c'est assez grandiose. Je sais pas s'il y en a qui jouent avec, avec musique autour de la table.
Ouais, oui, j'ai, mais... on a déjà fait ça. Ouais. Par ça contre, préciser qu'il faut pour pouvoir configurer tout ça, faut aller voir le tuto de Booga, hein, l'excellent tuto de Booga.
Ah ouais, là, voilà, parce que sinon, là, astuces, c'est compliqué. Voilà. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Là, c'est pas trivial.
C'est un tuto qui se trouve sur TOC ou sur JDA Virtuel?
Ah non, sur JDA Virtuel, je vais te montrer. Hop, tac. Quand tu vas sur JDA Virtuel, normalement, on devrait pouvoir trouver avec notre ami Google, si j'imagine.
J'ai pas poussé le référencement, mais bon.
Et si je mets TeamSpeak Musique, normalement, on devrait pas être très loin du truc. Musique d'ambiance sur TeamSpeak. Tuto TeamSpeak pour les JDR en ligne. Ça se trouve, c'est déjà du ouais, c'est déjà du Booga, ça. Alors, regardons. Ce tuto explique comment utiliser le logiciel Virtual Audio. Voilà, c'est ça. Virtual Audio Cable pour rediriger les sons sortant de vos lecteurs de musique vers TeamSpeak. Super bien fait. T'as raison, je vais le noter. Je vais garder l'adresse dans un coin. Comme ça, je pourrais le remettre sur Talk.
T'as un tuto écrit aussi. Hein. Enfin, il y a un topic dans la partie justement outils au niveau des sons. Donc, un tutoriel qui est écrit où il explique vraiment bien les choses. Quoi.
Voilà, vocal, et musique voilà. Et son. Et là-dedans, vous avez Virtual Cable, je pense. Ou un truc comme ça, non? Musique.
On voit pas bien là, mais.
Ambiance musicale. Vous voyez pas terrible?
Ouais, ça va.
Ambiance musicale. Enfin voilà, vous enfin, trouverez bon, bref, sur les forums. Ouais.
Trouver, ouais.
C'est assez simple. Et franchement, là, quand vous combinez la possibilité. Je vais remettre de la lumière, là je suis dans le noir. Quand vous combinez la possibilité de faire des petites salles. Pour séparer vos joueurs de la musique qui peut rester pendant que vos joueurs sont en train d'attendre, franchement, vous êtes très près d'une grosse ambiance de JDR. Donc,
Et là, en revanche, on parle de son. Ouais. La question après, c'est comment gérer les aides de jeu, mais c'est peut-être quelque chose que tu.
Alors là, on va y arriver tout à fait. Là, c'est... pour l'instant, en réalité, si. Regardez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager mon bureau. Là, vous le voyez, mon bureau. Hop, hop. Donc en réalité, mon répertoire JDR virtuel, voilà en quoi il consiste. C'est-à-dire que première chose que je vais faire, je vais gérer les sons. C'est-à-dire que je vais rediriger. D'habitude, j'écoute ça sur les haut-parleurs. Je redirige ça vers mes écouteurs. Même chose pour le son, pour qu'on m'entende au micro. Allez, blablabla, je parle. Une fois que j'ai fait ça, je lance mon client TeamSpeak pour aller me connecter chez JDR virtuel. Pouf, pouf, pouf. Jusque là, ça va? J'écoute. Et ensuite,
ouais, très bien.
Faut pas hésiter à poser des questions. Hein. Moi, je peux expliquer les trucs autant de fois qu'il faut. Je suis là pour ça. Et ensuite, je vais donc aller choisir l'outil de table virtuelle qui a été décidé d'utiliser par le maître de jeu. Donc, on a dit, il y en a quatre. Attaquons les quatre. Attendez, je vais vous séparer parce que sinon, vous allez être le bordel. Vous allez voir mes photos de vacances et tout. Donc, il y en a quatre. Et les quatre sont MapTools, Roll20, Rollisteam, Rollistic, c'est un peu, on séparera, et Fantasy Ground. On va commencer par Fantasy Ground, pourquoi? Parce que c'est le seul payant.
Le seul payant des quatre, mais il y en a d'autres qui sont payants, mais
oui, pardon.
Qui sont pas trop, qui sont moins utilisés, on va dire, par la communauté.
D'accord. De toute façon, on le voit sur, vous le verrez sur les forums JDR virtuels notamment, c'est que quand vous allez sur un one shot, c'est souvent mis dans le titre. Mm-hmm. Il y a marqué TS pour TeamSpeak, vous voyez, Rollisty. Ah non, vous le voyez pas parce que j'ai pas repartagé. J'en partage.
C'est lorsqu'on doit proposer donc là sur le forum, lorsqu'on veut proposer soit un one shot, c'est-à-dire une courte partie, un petit scénario, un one shot, soit une campagne, on conseille d'indiquer dans le nom donc du topic le titre du enfin le jeu le logiciel utilisé, si c'est du vocal ou du texte, si c'est enfin voilà,
et le nombre de personnes donc c'est vachement bien foutu comme ça. Oui,
bah, ça permet de repérer un peu plus facilement,
très rapidement,
ce qui nous intéresse ou pas, quoi. Il y en a qui ne veulent jouer qu'en texte, d'autres qu'en vocal, d'autres avec TS, d'autres voilà.
Ou d'autres, c'est vraiment très simple.
Qui veulent utiliser Fantasy Ground ou MapTool. Enfin.
Et surtout, comme vous pouvez le voir, il y a un topic, enfin il y a un forum qui s'appelle Rôliste à la recherche de parties. Mmh. Parce qu'en réalité, moi je me suis pas proposé sur toutes les parties qui m'intéressaient, mais je l'ai dit, voilà, que j'étais vonf, que je voulais faire du vocal, et après que la partie, je voulais juste faire un one shot. Et ben j'ai été, on m'a répondu quasiment aussitôt parce qu'il y a pas mal de gens qui jouent. Ça répond à la question. Oui. Je sais plus s'il y avait une question, mais enfin.
Je suis pas sûr qu'il y ait une question à la base.
Eh bien, ça y répond de façon fort judicieuse. Donc, on commence par donc le préféré de Marc Jean, Fantasy Grand. Quand il a dit, Marc Jean a dit, quand vous y avez goûté, vous ne pouvez plus vous en passer. C'est un peu normal vu que vous avez payé, vous voulez rentabiliser.
Bon, le droit d'entrée. C'est pas si cher. Hein.
Il y a quand même un droit d'entrée, rien que pour le logiciel qui est à combien? Vous savez ou pas, non?
Alors, il y a deux licences. Ça fonctionne par licence, hein. Donc, qu'on achète sur Internet, on a une clé. Enfin, bref. Donc, il y a la licence full qui permet donc au MJ donc de masteriser une partie et la licence light qui est destinée aux joueurs. Donc, bien sûr, quand on a une licence full, on peut aussi jouer, quoi. Donc voilà. Mais quand on a une licence light, on ne peut que jouer, on ne peut pas être MJ. Alors la licence full, d'après mes souvenirs, ça doit être dans les $39. Donc je vais vérifier en direct.
On va vérifier en direct.
Voilà. 30 secondes. Toc Toc Store. Donc je crois que c'est $39.
$39, ouais. Voilà. Et $24 pour la light.
Voilà. Alors en sachant que bon.
Oui, c'est ça, pardon.
C'est ça, tout à fait. Ouais. Ça peut paraître cher, $39. Bon, après, chacun. Il y en a qui sont absolument contre le fait de payer pour jouer. Bon, il y en a, que ce soit un jeu de rôle, que ce soit un logiciel, quoi que ce soit. Bon, après, on va pas rentrer dans ce débat-là. Donc, $39, c'est pas si cher que ça. Mais surtout, ce qu'il faut voir, déjà, c'est du dollar, donc en euros, ça baisse un petit peu. Mais surtout, c'est que si on achète à plusieurs des licences, on a une forte baisse. On peut économiser, je pense, jusqu'à 30%, voire 40%. On a fait quelques fois des achats groupés.
En plus, tu peux passer sur la licence Ultimate où les joueurs se connectent de façon gratuite.
Voilà.
Bon, par contre, $149.
Et d'où il y a un peu la licence Ultimate, $149. Ouais. Mais bon, donc.
Mais c'est vrai que si tu te rassembles.
Mmh, oui, tout à fait. Oui.
Alors, pourquoi on en parle
à la fois ce qu'il faut qu'on.
Oui, vas-y.
Prendre. C'est une licence à vie. Moi, je l'ai acheté il y a 5 ans. Je l'ai acheté à l'époque 24 euros. Et depuis, voilà, j'ai une licence qui, pour le prix d'un livre de jeu de rôle.
Oui, oui, et puis même moins cher qu'un livre de jeu de rôle.
Donc, ça se. Voilà, donc c'est.
Alors, sachant que.
Très. Enfin.
Sachant que, est-ce qu'on peut jouer sans avoir un package qu'avec la licence de base?
Bah, de toute façon, on peut jouer. Enfin, on peut jouer avec licence full EMJ, à partir du moment qu'il y a une licence full.
Il n'y a pas besoin d'avoir un setting particulier parce qu'il faut ce qu'il faut savoir.
Ce qu'on appelle parce que ça a des noms particuliers, donc dans Fantasy Grand, ce que tu appelles le setting, c'est le roll set. Eux, ils appellent ça un roll set. Et en effet, un roll set qui existe pour l'appel de Cthulhu, donc qui permet d'avoir la fiche de personnage intégrée,
Une question sans roll set, est-ce qu'on peut jouer?
Bah. On peut jouer comme on ferait avec Rollisteam ou comme on ferait avec Map.
Ça, c'est pas customisé pour la partie.
Voilà, ce n'est pas customisé, mais tu peux quand même balancer des dés. Peux balancer des dés, tu peux écrire des notes, tu peux faire des trucs comme ça. Mais tu n'auras pas ta fiche de personnage sur l'écran. Il faudrait que tu travailles comme on fait avec d'autres logiciels. Ça veut dire que t'as un doc Word dans ton coin ou une fiche papier.
D'accord.
Un PDF. D'ailleurs, il y a un super PDF. Vous devez connaître, oui, TOC, un super PDF éditable par Jean Fi, je crois, où tu peux enregistrer tes données. Enfin voilà, il y a beaucoup de moyens, quoi, utilisables.
D'ailleurs, au début du jeu, on jouait comme ça.
Mais maintenant,
des subtilités,
des packages.
Celui qui a la, comme dire, le MJ qui a Fantasy Grand, il peut, s'il veut, en effet, acheter le rollset donc de l'appel de Cthulhu, ça veut dire le sort de template qui permet donc de gérer en effet la fiche de personnage. Donc ce rollset est payant. Donc c'est un rollset qui est en version anglaise à l'origine, qu'on achète sur le site de Fantasy Grand. Donc c'est en anglais. Et bon, après il suffit, on a des gars chez nous qui sont très très forts, et dont Marc Jean. Et enfin moi j'ai rien fait, mais ils ont traduit donc le rollset en français, quoi, version sans détour, avec tout ce qui va bien avec. Et donc celui qui a acheté le rollset en VO me contacte moi par MP ou par email, et m'envoie juste un screenshot de son rollset en VO, et on lui fournit le rollset en version française. Donc, ce rollset permet de jouer donc à l'appel de Cthulhu, mais il donne en plus la possibilité d'avoir d'avoir les fiches de personnages intégrées.
MP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un message privé. C'est juste un petit message envoyé sur les forums directement d'un utilisateur à un autre.
Alors, vu qu'on parle de Fantasy Ground, si je peux me permettre, je vais un petit peu rebondir. Donc, moi, dans mon cas à moi, je jouais beaucoup pour sa simplicité avec Rollisteam. Et, on surfe un petit peu sur JDR virtuel. KL79 a fait un très très bon boulot avec des tutoriaux vidéo.
Il en a fait plein, ouais.
Et qui, parce que bon, moi j'étais un petit peu sur la simplicité de Rollisteam, et puis en commençant à regarder un petit peu ces vidéos, j'ai dit, Fantasy Ground, ouais, ça me disait bien, parce qu'en plus il a un attrait graphique assez.
Le look est top, ouais.
Ouais, assez intéressant, donc ça met un petit point supplémentaire sur l'ambiance, hein, faut pas se le cacher, en plus d'avoir une ambiance sonore et l'ambiance que le MJ peut distiller. On a aussi cette petite ambiance visuelle par Fantasy Ground. Donc, il m'attire un petit peu, mais bon, n'étant pas trop anglophone, on va dire, j'étais un petit peu réticent, quoi. Donc, KL a commencé à proposer ses tutoriaux vidéo de ce côté-là, et du coup, ça s'est devenu assez facile, assez facile pour moi. Et je me suis rendu compte que ce logiciel n'était pas du tout si compliqué que ça. D'accord. Et qu'il offrait, effectivement, comme sont en train de le dire nos amis, qu'il offrait beaucoup, beaucoup de choses et de choses sympas, notamment pour en dehors de la partie en elle-même, notamment pour le MJ. Je crois que Marc-Jean va me rejoindre sur ça, quoi. En fait, on peut prendre, le MJ peut créer de son côté dans ce logiciel-là, peut prendre toutes ses notes et préparer toute sa partie de A à Z avec ce logiciel. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec Rollisteam, qui ne sert qu'à partager. Et avec ce logiciel-là, on peut vraiment se faire se faire le détail du scénario, vraiment prendre ses notes à l'intérieur en faisant des liens vers les images. En même temps, par exemple, je sais pas, dans mes notes, je fais un descriptif d'une mosquée.
Ouais.
Et je veux, en même temps que je fais ce descriptif-là, je veux envoyer une photo, mais appuyer un petit peu plus encore l'ambiance de cette mosquée, envoyer une photo. Ouais. Dans mes notes, je peux mettre un hyperlien qui m'ouvre sans aller chercher dans mon dossier images. Dans mes notes directement, je peux avoir un hyperlien sur lequel je clique et qui boucle directement l'image, sans avoir à aller le chercher. Ce qui, je pense, si ça a bien été préparé en amont, gagne en facilité pour le MJ, pour tout partager, etc.
Alors, tu relèves un point qui est assez intéressant et qu'il faut noter. C'est une vision que j'ai après en avoir testé plusieurs, c'est que ces outils sont souvent Rollisteam, je pense pas, mais sont souvent américains d'origine. Mm-hmm. Et les Américains, à quoi ils jouent le plus? Au donge. Donc les outils, j'irais fondamentalement, sont très très orientés donge. Comme disait tout à l'heure, je sais plus qui, mais je vais retrouver, ça devait être toi, Chronomancien, avec ce qu'on appelle le brouillard de guerre, c'est-à-dire le brouillard de guerre, ce qui permet aux joueurs que vous voulez ou situés sur une petite carte. Pour ces joueurs-là, ils ne voient que ce qu'il y a autour d'eux et ils ne voient pas ce qu'il y a au-delà. Et à chaque fois qu'ils avancent, hop, le brouillard se dissipe vers là où ils sont. Donc, ces jeux-là sont quand même assez orientés. Enfin, voilà, quand vous créez un plan, la plupart du temps, je généralise hein, bien sûr, mais c'est pour que le propos soit plus simple, la plupart du temps, c'est des cases, c'est du carré. Enfin, on vous propose, je dirais, de... C'est, par exemple, quand tu parles de préparer la partie, tu vois, moi, à Toulouse, j'aurais du mal à préparer une partie et à la scripter. Et pour faire un peu hurler Marc-Jean, je dirais que là, on se rapproche un peu du MMO, parce que... du jeu PC, parce que le jeu PC avec lequel c'était Neverwinter Nights avait un maître de jeu et permettait de scripter un donjon. Donc, moi, je situerais la limite dans ce que je vais scripter à des macros. Alors, quand on appelle des macros, c'est par exemple une dole apparaît ou un profond apparaît. Hop, j'ai un petit bouton, je clique et hop, ça me fait aussitôt le jet de santé mentale pour tout le monde et ça dit à un tel, t'as perdu du temps en santé mentale. C'est ce qu'on appelle des macros. Ce sont des actions un peu plus complexes qui sont scriptées derrière un bouton. Et quand vous cliquez dessus, ça fait quelque chose. Mais moi, j'aurais du mal à aller vraiment au-delà où vraiment il y a le script, parce que moi, mes joueurs, ils font assez rarement ce que j'ai prévu. Et j'aurais peur que le script m'oblige à les faire passer par les endroits où, tu vois, s'ils vont pas du tout à ma mosquée, je serais dégoûté.
Alors attention, le script...
Bah, je dirais que si je peux... Ouais. Et pardon, non, vas-y. Excusez-moi.
Vas-y.
Je dirais que tout cela dépend de du jeu que tu joues. Il y a des jeux qui sont profondément axés sur les règles, comme Donjon 3-5, qui est très stratégique, avec effectivement les systèmes. Il y a des jeux qui sont moins axés sur le côté visuel, déplacement de figurines, wargame stratégique, comme Cthulhu. Et puis il y a des maîtres qui aiment plus ou moins une représentation plus graphique, avec des déplacements à sienne. Avec des figurines, ça dépend un petit peu de la façon.
C'est vrai que ça dépend tout à fait, mais c'est vrai que mon propos, c'est que Donjon, dans sa version 4, a très nettement fusionné vers le jeu de figurines. Moi, j'ai trouvé ça trop pourri, mais ça, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Et moi, comme je suis pas un joueur JDR tactique, c'est compliqué. Mais bon, enfin, les positionnements carré par carré avec le maître pour savoir si ma boule de feu elle va pas toucher un mur avant de toucher le gobelin, je le fais pas. C'est ça qui m'a un peu, où j'ai eu un peu peur. Après, on fait ce qu'on veut avec les outils. C'est
l'intérêt
des
outils. C'est ce que j'allais dire.
Et Map Tools, moi, me convient tout à fait, mais c'est orienté un peu comme ça. Je dirais qu'il faut savoir utiliser l'outil. Il faut pas vous dire, pour ceux qui ont jamais joué, je vais prendre l'outil à 18h30 et à 19h, je fais ma première partie en tant que gardien. Non, non.
Attention, tu vas faire peur à beaucoup de monde, là. MapTool, comme son nom l'indique, c'est un outil pour gérer les maps. Enfin, c'est c'est un outil pour faire du jeu de rôle en ligne, d'accord? Mais très orienté map, même si on n'est pas obligé de faire que ça, mais voilà, c'est très orienté map.
C'est intéressant.
Après, on peut très bien utiliser les fonctions de base de MapTool, mais en effet, c'est un outil qui surpasse tous les autres, même Fantasy Grand, au niveau de la gestion des maps.
C'est-à-dire que, pour vous donner une idée de ce que se dit, c'était toi, Chronomancien, vous donner une idée de ce qu'il dit, c'est que MapTools va aller... Alors, à un détail moi que je trouvais assez génial, j'utiliserai pas, mais c'est génial, c'est qu'il garde en mémoire ce que vos joueurs ont vu. C'est-à-dire qu'un joueur rentre dans une pièce, voit la configuration de la pièce, donc il voit le brouillard de guerre se dissiper, parce que genre il a une torche, donc déjà, rien que le cône de lumière de la torche est représenté, c'est assez fort. Il referme la porte, la pièce, il se retrouve dans le couloir, donc le couloir est cette fois-ci illuminé, mais comme la porte est fermée, il ne voit pas au-delà. Par contre, il y a un grisé sur la pièce, sur les endroits qu'il a vus. Donc ce qui veut dire que l'outil vous permet de gérer jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire, attendez, je me rappelle, il y avait un poteau là, un poteau là.
C'est très jeu vidéo.
Et il se passe quoi si les joueurs veulent aller à des endroits qui n'ont pas été cartographiés?
À la fois, c'est le maître.
Oui, tout à fait.
Le maître a énormément de préparation en amont. Alors, il va falloir que lui passe ses cartes pour planter ses petits machins, etc.
Pas et
comme
bien.
Je le disais tout à l'heure, oui. ça dépend de la façon dont le maître va comporter le voir son jeu.
Ce dont on parle, Marc-Jean, ce dont on parle, c'est pas de dire la bonne façon de faire du JDR virtuel. Mon but, c'est de donner vraiment un panel. Parce que il y en a qui vont adorer les trucs techniques, d'autres qui vont détester. On peut tout faire.
Oui, mais attention, là où moi je voudrais mettre un petit peu le doigt, pardon de vous couper.
Bien sûr.
C'est là, on est en train de dire, ouais, celui-ci est capable de faire ça. Il est capable de le faire, mais on ne va pas forcément le faire. C'est le MJ qui va décider de à quel point il veut. Fantasy Ground n'est pas un logiciel tactique vis-à-vis de. Il peut le faire.
On peut utiliser MapTool sans utiliser les cartes.
Voilà, ouais. Attention, Fantasy Ground va y venir. Hein. C'est prévu pour la prochaine mise à jour. Donc, très certainement, le brouillard des Américains le réclame.
Par contre, pour répondre à la question,
il y a des votes qui sont faits pour les améliorations.
Pour répondre à la question, c'est que en effet, il faut avoir prévu dans le cadre de ce que je présentais. C'est-à-dire que là, c'est assez complexe. Il y a aussi des tutoriels de Bouga qui sont très intéressants.
Travail en amont.
Là, il y a un travail. Il faut découper la carte avec les murs, les endroits où la lumière ne peut pas
final,
passer.
C'est exactement pareil que sur table.
Oui.
Non.
Si tu as envie d'avoir une battle map.
C'est sur table. Sur table, moi, quand tu commences à faire un plan, t'es obligé de dessiner vachement plus de trucs que ce que les gens voient. Ce que je veux dire, c'est que là, les gens se tournent avec une torche.
On peut aller jusqu'à passer des dizaines d'heures en préparation.
Oui, non, ce que je veux dire,
qui est un peu geek, il va se perdre dans la préparation, dans les détails. Moi, je connais des maîtres de plus de temps à préparer leur map, le scénario, quoi, qui s'oublient. La préparation des
outils. Ça peut être un choix.
Ça apporte en fait une possibilité beaucoup plus large qu'autour d'une table.
Alors, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait intervenir.
En termes d'aide de jeu, mais c'est absolument impressionnant.
Il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir. Tu disais que par rapport à la... Je ne sais plus qui est-ce qui voulait intervenir par rapport au sur-table.
Je disais simplement que au niveau de la préparation... Un MJ qui a envie de préparer une carte détaillée avec plan et éventuellement par exemple pour un donjon un plan modulable etc ça prend tout autant de temps. Je pense pas que ça soit très spécifique au JDR virtuel. Ce qui est vraiment spécifique au virtuel, c'est justement cette histoire de technicité, brouillard de guerre, gestion du cône de vision etc qui est très chronophage. Mais au fond, si le jeu, il a envie de faire une carte sur table très détaillée, il l'a fait.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu as une facilité avec les outils, notamment de gestion de la lumière, que tu arriveras difficilement à rendre sur une table, quoi.
Tout à fait.
Par contre, imaginez, alors bon, là on va parler au poulpe, mais imaginez la scène d'intro des masques avec ce genre de choses-là bien montées, ou alors l'entrée dans une crypte. Vous n'allez pas faire ça toute la partie, mais rien que pour la découverte, ça peut être super fun. Donc, comme on le disait tous, ce sont des possibilités des outils. On va récapituler parce que je suis toujours en train de me disperser.
Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que donc on a des maps, tout ça, il y a des outils qui peuvent faire plein de choses avec les maps, mais on peut très bien donc faire du JDR virtuel simplement sans apprendre toutes les fonctionnalités de ces logiciels-là, simplement savoir afficher une image, même pas gérer le brouillard de guerre, voilà, juste une image, pouvoir chatter en mode texte pour faire une description ou pour envoyer des messages privés, bon voilà, et ce n'est vraiment pas nécessaire de gérer des cartes, de faire préparer à l'avance, voilà, c'est selon les MJ. Il y en a qui ne font jamais de plan, il n'y a aucun plan.
Attention, après ces logiciels sont des aides, on peut aussi jouer sans.
Il y avait une question de
oui, moi je
des cartes.
Oui, voilà, c'est parce qu'entre faire un plan sur papier pour une partie sur table, c'est une chose. Moi, personnellement, prévoir avant un scénario ou une campagne des maps sur un logiciel, des pièces dans lesquelles peut-être les joueurs n'iront pas, et s'ils vont dans une autre pièce pour laquelle il n'y a pas de carte, ils vont dire, bah tiens, comment ça se fait, là il n'y a pas de carte, si, bon, bah on va ailleurs.
Disons qu'au plus simple, il ne faut pas hésiter à demander sur TOC aussi de l'aide. Au plus simple, tu vas sur le site de Sans Détour, là je parle pour les scénarios l'appel au Toulouse, ou même les scénarios sur TOC ont souvent les aides de jeu. Tu récupères les aides de jeu. Elles sont très souvent comme en PDF. Après, soit tu peux filer des PDF, mais bon, là c'est un peu pourri. Mais après, il suffit juste d'exporter ou alors de faire des impressions d'écran sur les plans en PDF. Ça devient des images et là tu les partages. C'est, ah oui, moi j'ai fait des parties comme ça. C'est vraiment le plus simple.
Tu n'as absolument pas besoin de faire des cartes en fait au final.
Okay.
Disons que c'est comme pour une partie de JDR classique. Tu vas préparer la scène finale en te disant ah la scène finale j'ai envie que ça arrache et j'ai envie d'utiliser les cartes. Maintenant pendant tout le début du scénar ou même pendant tout le scénar finalement tu peux ne pas utiliser de cartes. Hein. Si les cartes ça te saoule tu peux même faire que de l'échange d'images parce que tu trouves que
faire des dessins
c'est mieux.
Direct.
Voilà faire des dessins si t'as une
l'équivalent du tableau Velleda.
Un outil de
oui, on peut les dessiner.
Voilà, en fait, c'est ce que je voulais. C'était le sens de mon intervention de tout à l'heure. Voilà.
D'accord.
Je me demandais si certains utilisaient les éditeurs de maps justement sur ces logiciels. Est-ce que c'était galère ou pas?
Ça prend beaucoup de temps, je pense. Faut être pour faire simple, ça dépend des outils. Map Tools, c'est rapidement compliqué. Soyons honnêtes. Roll20, on va en parler, mais c'est assez simple. Rollisteam, c'est simple, mais c'est limité. Fantasy Grand. C'est bien foutu, et ça, mais c'est un petit peu compliqué, je trouve, personnellement.
Alors, moi, je vais donner mon opinion sur ça. Pour les cartes, pardon. Non, alors si.
Juste utilisé pour manipuler et retoucher les cartes, c'est ça la question, je crois.
Oui, c'est ça, c'est est-ce que certains préparent un plan, un joli plan.
Ouais, mais par exemple, Roll20 ou Rollisteam, c'est pas des éditeurs de plans, c'est des outils de partage.
Rollisteam, tu peux faire l'équivalent du Velleda, enfin, d'ailleurs, tu peux faire des traits, tout pas beau.
Et tu peux faire une sorte de brouillard de guerre aussi.
Oui, voilà, bon. et tu peux mettre t'as même pas de token, t'as des points, t'as des petits points rouges, verts, bleus, sur Rollisteam, Rollistic. Sur Fantasy Grand, t'as des tokens avec des images, tout ça.
Alors, ce qu'on appelle un token, c'est un pion qui représente un joueur, un PNJ sur la carte.
Mais pour ce qui est réellement la conception, la création de maps, mis à part quand on fait comme un Velleda, donc avec des petits traits, il y a des logiciels qui existent comme Dogeny, je sais pas comment ça se prononce, qui sont dédiés à la création de maps. Ça fonctionne avec des textures, ça fonctionne avec des fichiers PNG qu'on rajoute, donc avec des, tu peux mettre des arbres là, bah, tu vas faire une route ici, tu vas faire un mur là, tu vas faire un donjon, enfin, il y a plusieurs outils qui existent, donc, sur Internet, qui te permettent de faire des donjons ou des trucs comme ça.
Il y avait des plans qui sont sympas, qui ont vraiment une bonne tête, quoi.
Mais, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus souvent des donjons, enfin des outils pour faire des donjons ou des trucs comme ça, que de bol, moi c'est pas trop ce que je préfère, mais ce sera beaucoup plus facile donc de trouver des outils pour faire des donjons ou même des maps toutes faites de donjons que pour de l'appel au Toulouse ou du Space Opera. Le Space Opera ou l'appel au Toulouse, c'est déjà plus limité. Donc après on est obligé de se diriger éventuellement vers vers des sites de vente de PDF en ligne. Je vais pas les citer,
ouais,
mais
cartes, ouais.
En clair, ton style de jeu va faire ta map. Si t'es un maître de jeu plutôt quelqu'un qui est dans la description, tu vas faire des maps très simples, mais quelque part tu les as déjà sous la main. Tous les scénarios du commerce présentent déjà des maps.
Ou même sans map.
Quand toi tu écris un scénar, tu vas. Mais même tu fais un scan d'un truc sur le papier ou au pire tu le tires à la souris sur le logiciel. Après, le souci c'est quand tu habitues tes joueurs à un aspect visuel assez développé, bah, ils peuvent plus revenir en arrière et ça
c'est clair.
Oui, carrément.
Donc. Si on revient vers les outils, donc on a parlé de Fantasy Ground au début. Donc ça, bah, la difficulté, c'est que pour le tester, il faut quand même l'acheter. Hein. Je pense qu'on peut pas tester en étant joueur, si.
Il y a une, tu peux tester. Tu
Déval, peux, il y a une version light.
L'exécuter chez toi, t'as une démo qui est téléchargeable normalement.
Avec le logiciel lui-même.
Le logiciel lui-même, simplement, tu pourras pas te connecter à une partie ou alors peut-être limiter à, je sais pas, à 5 minutes.
Si la version démo permet à se connecter à un maître du jeu qui a une version Ultimate.
Oui, Ultimate. Non, mais c'est particulier. Oui, avec un MJ qui a une licence Ultimate, il pourra accueillir n'importe quelle personne, même s'il n'a pas de licence. En gros, la personne elle va télécharger la démo de Fantasy Grand, elle pourra se connecter à la partie et jouer tout le temps. Mais c'est que avec les Ultimate.
C'est le même jeu.
Donc Fantasy Grand, on en a parlé, ça fait un peu tout, mais c'est vrai, ce qui est pas mal quand même utilisé. Alors, vous avez une version qui demande d'avoir aucun outil d'installer sur votre celle dont on va parler. C'est roll20.net. Celle-là, c'est tout est dans le navigateur. C'est-à-dire que on va y aller. Hop, vous allez voir. Bon, enfin non, je vais pas vous le montrer parce que sinon ça va perdre trop de temps à chaque fois. Roll20.net, c'est que vous allez sur un site web et tout va se gérer. Alors faut s'inscrire. Faut créer un compte et là vous allez tout gérer dans l'interface web, c'est-à-dire vous allez sauvegarder votre partie, vous avez une bibliothèque d'objets, de plans, de musique d'ambiance et tout ça. Je crois qu'il y a quelqu'un sur TOC qui a mis des vidéos très intéressantes.
Ouais, c'est moi.
Ah, c'est toi. Bah génial. Donc sur l'utilisation justement de Roll20. Tu peux nous en parler un peu de Roll20.net sans entrer dans le détail, mais globalement...
Globalement, c'est une table virtuelle au même titre que Rollisteam, Rollistic, etc. Gratuite, donc... Gratuite, avec souscription si on veut des fonctionnalités en plus. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a absolument rien à installer. Il suffit d'avoir un navigateur...
Que ce soit du côté des joueurs ou du maître.
Voilà, c'est ça. Donc... Ça gère, techniquement, ça peut gérer le son, la vidéo également, la table virtuelle. C'est un petit peu comme le Google Handout, si tu veux, avec une table virtuelle en plus, quoi.
Tous les outils, d'accord, GD, ce genre de choses.
Voilà, donc il y a GD, gestion des images, de partage d'indices, la musique. Donc et évidemment le chat textuel, quoi.
Mais ça veut dire que si c'est purement virtuel et que tu n'as rien à installer, est-ce que tu peux en revanche, toi en tant que MJ, te connecter avant, loader certains fichiers pour préparer ta partie quand même?
Tout à fait. En fait, ta partie est automatiquement sauvegardée toutes les je ne sais plus combien de secondes et tu peux y retourner quand tu veux et les joueurs peuvent y retourner également sans que le MJ soit connecté. En fait, voilà. Tout est sur un serveur distant qui appartient à ceux qui font Roll20, quoi.
Voilà, je m'y connecte. Donc j'ai créé un compte
et donc, j'ai une campagne. Y quand tu veux, ouais.
J'ai une campagne qui est là, test Fivon. Je m'appelle François Yvon. Et donc là j'arrive dessus. Bon, j'ai pas fait grand chose. Attendez, là c'est launch campagne. Et voilà, on va voir ce que j'ai fait avec mes petits doigts musclés. Hop. Donc là t'as la partie droite, la gauche t'as les outils. Donc là je suis toujours dans mon navigateur. Donc ça prend un peu de temps à démarrer, mais c'est un peu normal parce qu'il y a pas mal de choses. À droite, donc on va y avoir les outils en haut, notamment de partage, le chat en bas. Et voilà, j'arrive sur une... Bon, c'est tout pourri. J'arrive sur une carte. Alors là, je vous ai mis une carte, mais en réalité, voilà, je peux faire apparaître des petits bonshommes, des tokens. Je peux mettre des cartes. On peut uploader, hein, c'est ça
Tout ce qui est image, en fait... peuvent directement s'uploader sur la plateforme par un simple drag and drop. Hein. On prend le fichier de notre dossier, puis on clique, on maintient le clic appuyé, et on le tire vers la table.
Je viens de le faire.
Voilà, et ça upload directement l'image.
Et tac.
Donc soit c'est une image, c'est pas une photo de PNJ ou quoi que ce soit. Hein. Ou une carte, donc ça marche très bien. Et ensuite au niveau musique... par contre, on est restreint à la banque de données de Cloud Sound. Voilà.
Donc voilà, je regarde, là, je mets
par exemple 120.
Mais tu peux de toute façon faire Roll20 et TeamSpeak par ailleurs.
Voilà, tout à fait.
Tout à fait. Les combinaisons sont infinies.
Tout à fait. C'est-à-dire que
très bien foutu. Hein.
Que, eh ben, j'ai envie d'utiliser ma propre musique. Dans ce cas, j'utilise TeamSpeak avec Virtual Audio Cable, Virtual Audio Cable,
cable ouais.
Pour mettre ta propre musique. Voilà. La philosophie derrière Roll20, c'est vraiment, t'as absolument rien à installer, rien à faire, limite. Tu viens, t'as des banques de données et.
Et voilà. Il y a aussi des scripts, on peut faire des scripts, gérer des jets de dés.
Alors au niveau des jets de dés, oui, on peut gérer des jets de dés un petit peu bizarres, que ça soit voilà de D4 plus 5, quelque chose comme ça. On peut aussi donc il y a des fonctionnalités un peu avancées comme dans Rollistic ou Fantasy Ground. Où, tu as
oui, les dés sont arrivés.
Et les dés sont arrivés. Voilà. tu peux avoir une fiche de personnage et lier des jets de dés avec certaines caractéristiques, etc., etc. Donc de ce côté-là, oui, c'est assez.
C'est plutôt bien foutu.
C'est assez
compliqué, quoi. Ouais. Roll, pardon, je me suis trompé. Hop. Vous voyez, par exemple, là, il garde l'historique. Hop, il y a mes dés qui arrivent. Tu as vu
Ouais, je vois ça.
La zap, tu vois, donc, tu vois, c'est quand même assez. Tu peux mettre des timers, tu peux parler qu'à des personnes, tu peux montrer des choses qu'à certaines personnes, t'as un journal, enfin voilà.
Et du coup, pour rebondir par rapport ouais. à... On parlait de map, etc. Moi, je fais jouer les masques de Nyarlathotep sur Roll20. Et ce que je montre à mes joueurs, donc ce que là, tu vois sous tes yeux, donc ce que te montre Vonve, au final, j'ai décidé de ne mettre que les photos des PNJ. Donc, je prépare quasiment jamais de map. T'es absolument pas obligé de passer par des cartes.
Par exemple, voilà. pour pousser ce que dit, qui est très très intéressant de Joldus, tu peux tout à fait avoir comme fond d'écran sur ton outil de map virtuelle une espèce de beau cuir un peu sombre. Tu mets au milieu une carte un peu ouvragée du monde, un peu à Indiana Jones, tu sais, quand il se déplace de continent en continent. Et à la limite, tu mets les portraits des joueurs avec leurs petits noms marqués. Tu peux faire ça sous forme d'une image, hein, et tu laisses ça en plein milieu, sans rien partager d'autres, et ça peut être le chat et le GD à côté, et rien que ça, t'as une ambiance, tu peux avoir la musique à côté, et rien que ça te fait une table, je dirais, dans son plus simple appareil, t'as rien à comprendre, et vraiment, il faut que t'aies réussi à lancer le truc, et que t'aies compris comment on partage, mais c'est tout, quoi, et c'est vraiment très simple. Ça répond à ta question à peu près, c'est.
Oui, ça répond très bien à ma question. Après, j'ai d'autres questions qui sont plus sur la façon dont on peut gérer. Est-ce qu'on gère à l'ancienne les GD, les caractéristiques, les fiches de perso? Est-ce qu'il y a certains logiciels qui gèrent des fiches de perso paramétrées?
Ouais.
Mais je pense qu'on fera
le tour. On va faire le tour. On va faire le tour pour les autres, comme ça on va l'aborder. Donc les deux autres qui nous restent, il y a Rollistic qui est devenu Rollisteam dans le temps parce que machin, et c'est Rollisteam qui est le plus développé. Et on a MapTools, ce sont les deux derniers. Je pense que ce sont parmi les plus utilisés, d'après ce que j'ai vu sur les forums. Et que, non.
Roll20 commence à être un peu plus parce qu'il est relativement neuf, mais
il est jeune, hein, Roll20, donc
il est jeune, mais
il est très simple.
Commence à faire un peu sa place. Fantasy Grand n'est pas mal utilisé, mais il y en a beaucoup qui utilisent en effet MapTool ou Rollistic ou Rollisteam. Voilà, c'est variable.
Voilà. Donc là, je suis en train de lancer Rollisteam, donc c'est assez simple. Après, là, je
exactement la même tête. Hein.
Okay. Ah, ça marche pas parce que j'ai déconné. Ah oui, pardon. Héberger la partie. Je suis désolé. Donc voilà. Bah là, c'est tout bête. J'arrive sur Rollisteam. Donc je suis FFFF. Voilà comment se présente l'outil de base. Avec donc tous les différentes petites choses que je peux faire. Alors, après, il y a des tutoriels qui sont mieux que ce que je suis en train de vous montrer. Hein, parce que moi, je suis un peu débutant.
À savoir que l'image qu'on voit là avec la bourse de dés, tout ça, bon, c'est vraiment qu'une image. Hein.
C'est vraiment le fond.
On peut pas les attraper, on peut rien faire avec. Enfin, je dis ça, c'est par rapport à Fantasy Grand. Hein. Vous pourrez voir la différence.
Mais, on peut récupérer les dés, les jeter à la main. Voilà. Ouais.
L'intérêt de Rollisteam, c'est qu'il est vraiment très simple. En effet, donc il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, mais il est vraiment très simple.
Ça suffit.
Très simple d'accès.
Exactement.
Voilà. Et
Rollistic présente un intérêt tout autre. J'utilise en parallèle de Fantasy Grand, notamment pour sa fonctionnalité audio qui permet de se débattre de toute bande passante et de diffuser chez les joueurs des morceaux de musique à la demande. Le plus que j'ai découvert il y a peu de temps, c'est qu'on peut le lancer plusieurs fois. Et donc passer en parallèle une bande audio musique d'ambiance, une bande audio que sais-je de nuit avec des grillons et
Faut que les joueurs aient les mêmes morceaux chez eux ou pas?
Il faut qu'ils aient téléchargé les MP3.
Il faut que tous les morceaux soient téléchargés.
C'est hyper limitant. C'est hyper limitant par rapport à un virtual cable ou là.
Mais ça permet aux personnes qui ont des bandes passantes limitées de pouvoir gérer de la musique.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi dans le fait de super limitant, parce que en fait tes musiques, quoi qu'il en soit, quand t'as préparé ton scénario, je pense, tu les as préparées à l'avance, tu sais à peu près quand c'est que tu veux les balancer et tout ça, quoi. Est-ce que, enfin, toi, tu arrives à te dire, comme ça, à la volée, je vais envoyer cette musique?
Alors, première chose, c'est que...
Tu vois, ne pas l'avoir prévu dans le scénario et
ouais,
dire...
Ouais, mais... C'est... La première chose que je vais te rétorquer, c'est que déjà, il y a beaucoup de BO, ce sont des CD ou alors des MP3 que j'ai achetés. Et qu'on n'a pas le droit de les partager comme ça, parce que dès qu'on est plusieurs, c'est pas super autorisé. Donc je vais pas finir en prison, s'il vous plaît. Donc déjà, un, t'as pas le droit, sauf si les joueurs en face de toi ont aussi des morceaux, et dans ces cas-là, soit ils les ont achetés, et dans ces cas-là, ça va devenir cher la partie. Parce que
bien entendu, on compose tous les morceaux qu'on diffuse.
Mais là tu rigoles, mais enfin il faut être honnête, hein, dans ces cas-là tu payes Fantasy Grand, pourquoi tu paierais pas les morceaux MP3? Non, très honnêtement, moi j'ai foncé sur cette fonctionnalité là et à partir du moment où il m'a dit mais il faut que les joueurs en face de vous aient le MP3 au même endroit de leur côté, j'ai fait merde. J'ai été déçu. On peut l'utiliser, il est tout à fait possible de l'utiliser si tout le monde a les MP3 et si mais il faut les avoir nommés pareil, les avoir mis dans un même répertoire. C'est un petit peu complexe, je trouve.
C'est un paquet que distribue le même.
Ça voilà, suppose que les joueurs soient quand même assez disciplinés. Et
ils n'allaient pas voir les musiques avant. Parce que s'ils voient Nuit arabisante ou alors Torture dans le désert,
tu peux les numéroter, il faut t'en rappeler.
Non, je plaisante, mais le fait que les joueurs doivent l'avoir, pour moi, c'est limitant.
Et du coup, de manière un petit peu paradoxale, je me pose la question. Oui. Tu dis que c'est très pratique pour des gens qui ont une bande passante un peu limitée, mais il faut quand même qu'elle récupère ces musiques.
Ouais, oui, tu le télécharges, t'as le temps pour le télécharger. On va dire, tu le fais pas le jour de la partie.
D'accord. C'est-à-dire que tu donnes ton package qui fait tant de gigas, on va dire.
Alors, oui, enfin, c'est pas aussi gros que ça.
Gigas avant.
Voilà, il faut savoir que très souvent les joueurs qui jouent au JDR virtuel ont à minima un compte sous Dropbox ou ce genre de service qui te permet d'échanger des fichiers de façon tout à fait transparente de personne à personne. Et c'est vrai que c'est une des solutions assez simples en dehors, parce que les forums c'est pas tellement orienté partage de documents. Et le problème de Rollisteam et de tous les outils, de toutes les tables de jeux virtuels, c'est que tant que c'est pas lancé, t'accèdes pas aux choses. Donc les outils comme Dropbox, je sais pas si tu connais, mais voilà, te permettent d'échanger des... Tu peux même utiliser Google avec Google Drive ou Skydrive.
Tes musiques, tu les mets dans un RAR avec un mot de passe et puis c'est bon, quoi. Voilà. Ça reste privé.
Donc là, on a vu... se lancer, vous voyez toujours mon écran, hein. Vous avez vu se lancer Rollisteam, et donc je vais lancer le dernier, qui, moi m'a le plus plu, MapTools, par le côté boîte à outils, c'est-à-dire que de base, je peux faire des choses vraiment très simples, mais si je veux, je peux faire des choses super compliquées et qui, je dirais, prendraient une plus grande importance dans ma partie. Donc voilà l'interface. Je me suis créé mes bibliothèques. Comme vous pouvez le voir, je joue à la Elite. Donc là, par exemple, j'ai un plan. Je zoom, tu vois, hop, là, c'est une photo que j'ai récupérée. Bon, tu vois, ça a un rendu assez sympa et facile. Si je veux rajouter une femme des années 20 sur mon plan, hop, stick. Elle s'appelle Jocelyne.
Ça fait rêver.
Elle est un peu grosse, tiens. Bon, j'ai un petit problème de taille. Jocelyne est un peu volumineuse. Enfin voilà, c'est pour te donner une idée de l'interface et vous donner à vous autres aussi une idée de l'interface. Voilà, alors là, comme vous pouvez le voir, c'est une des fonctionnalités qui fait que c'est très proche quand même du jeu de figurines et du donjon à l'américaine. Et vous voyez, quand je déplace Jocelyne a une capacité de mouvement assez limitée. Elle ne se déplace pas dans les angles. Elle fait que des virages à 90 degrés, à 45 degrés. Donc voilà, c'est MapTools. Alors MapTools, comme on peut le voir, l'interface est quand même un peu plus conséquente.
Tu as récupéré le comment dire?
Ouais.
Le temple, enfin c'est pas le template, le framework pour Cthulhu.
Ouais. Mmh. Ouais, il est top. Superbe. Il est top. Il a été fait par Bouga, non?
Ouais.
Donc là, l'outil de base, donc on parle de framework, l'outil de base MapTools, voilà, j'arrive sur une pelouse verte, j'ai cette interface là, machin, ça on l'a pas au début. On a juste les défauts. Et maintenant, des gens, parce que quelque chose soit payant ou gratuit, il faut savoir qu'il y a des grosses communautés derrière tous ces outils, notamment sur JDR virtuel, et il y a énormément de gens qui customisent. Et donc, si je veux créer, je vais essayer d'ouvrir une campagne. Ouvrir une campagne. Donc celui-là, MapTools, pour faire les choses de base, vous pouvez vous en sortir assez facilement. Pour faire les choses plus compliquées, il faut utiliser un tutoriel. Et pour faire les choses comme je vais vous montrer, je vais vous montrer, hein, parce que vous serez des centaines de milliers à écouter ce podcast, comme d'habitude. Bon, là, ça m'a un peu tensargé parce qu'il y a plein de choses. Mais là, vous allez voir, ça va être un peu un sapin de Noël, mon interface. Parce que il a intégré dedans les feuilles de personnages, les règles spécifiques à l'appel de Cthulhu. Enfin, tout est dedans. Et c'est très orienté appel de Cthulhu, c'est un package, donc on appelle ça un framework. L'autre fois on appelait ça
un rollset sur Fantasy Grand, c'est un rollset, et voilà, puis sur MapTools c'est un framework.
Donc qu'est-ce que c'est? C'est qu'à chaque fois, là en plus on voit en place la visibilité, là il y a Miss Maple qui a une torche d'allumée. Donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc par exemple là tu vois, rien qu'en passant sur l'affiche, je vois en bas à gauche les blessures qu'elle a, les points de vie, les points de magie, la santé mentale, le niveau de fatigue. Enfin ça donne un peu une idée de jusqu'où on peut aller.
Et du boulot que ça nécessitait pour arriver là. Voilà, de la part du créateur du framework.
Si je la déplace, tu vois, on voit qu'il y a il y a ce qu'elle voyait tout à l'heure qui reste allumé, mais ce qu'elle voit maintenant est éclairé.
Et donc là aussi, enfin c'est super, mais là aussi on n'est pas obligé d'utiliser la
carte
là-dessus.
Si je vais sur,
il faut préciser que c'est la vue du MJ.
Du MJ. Attention. Oui, je sais plus c'est quoi, c'est M12, Shift M12 pour switcher.
Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé MapTool là.
Alors je sais plus. Là tu vois, je suis en train de switcher entre les différentes cartes parce que en plus tu peux stocker des choses. Carte à croquis, ben mince. Bon. Enfin, le fait est que, par exemple, si je crée une campagne, alors je sais plus si j'en avais fait une. Est-ce que j'en ai une un peu? J'avais fait Femme campagne. Donc là, j'ai fait une carte. Tu vois, par exemple, j'ai fait une carte avec les règles. Par exemple, là, tu vois, j'avais mis en médiéval fantastique, ben se rappeler ce que c'est qu'un épieu, une javeline. Donc pas du tout de carte. Là, j'avais la carte principale du jeu. Donc là, c'est la carte de la élite, comme vous pouvez le voir. Donc juste pour dire, vous arrivez sur le grand marché, tu vois, tout bêtement. Une carte en cours, là où je pourrais mettre une carte un peu plus spécifique, et après la table de jeu, où je peux mettre la tête des PNJ, un fond sympa, et puis c'est tout. Tu vois un peu comment ça fonctionne ?
Moi, je le vois en tout petit parce que c'était pas affiché en partagé, mais je me fais une idée, oui.
Tu peux, ah ouais, je l'avais pas en partagé? Ah mince. Là, je pensais qu'on se voyait un peu, on voyait un peu mieux. Donc voilà un peu l'idée. Donc là, on a couvert les quatre gros, c'est-à-dire Fantasy Ground, le plus beau et je dirais le payant et celui qui quand même a un maximum de fonctionnalités. Les autres
et le rule set que tu lui est très bien foutu sur Fantasy Ground. Je
et le rule set à 24 $ qui est très bien fait. Enfin, je plaisante, hein, les 24 $. Très honnêtement, en tant que joueur de jeu.
Non, francisé, faisant des tours.
Il est francisé c'est... après, oui.
Alors, il faut savoir que, donc, forcément, enfin, l'intérêt avec Fantasy Ground, c'est que tu suis les évolutions qui sont déployées, donc il n'y a pas vraiment de souci. Pour les autres du style Map Tools, tu vois, il faut que tu restes dans la version dans laquelle fonctionne ton set. Donc de, par exemple, si tu joues à Cthulhu, si tu as récupéré ce que je montrais tout de suite, il faut que la version que tu utilises de Map Tools soit en accord. Donc ça demande pas de gymnastique, hein, mais ça demande de bien suivre ce que fait la personne qui met à jour ce package Cthulhu. C'est-à-dire que tu auras la version de MapTools qui fonctionne bien avec le package, mais c'est tout simple. Après, bon, il y a que les geeks comme moi qui veulent changer tout le temps et prendre la dernière version et qui ont des soucis. Mais sinon, il y a pas de problème. Donc on a dit Fantasy Ground, la version le payant, mais qui est vraiment le plus beau. Il y a MapTools qui pour moi est le plus compliqué, si on veut faire des choses compliquées. Mais ce qui est surtout très simple et qui permet de faire, comme disait Gary Gygax, prenez le bouquin des règles de donjon, mais utilisez ce que vous voulez. Mais lui a une potentialité la plus grande pour moi. Et puis derrière, il y a Rollisteam, qui est une sorte de map tools plus light, mais qui se prend en main très très rapidement. Il permet de faire moins de choses, mais il est très très rapide à prendre en main. Et le plus, je dirais... facile si vous avez des novices totaux au point de vue installation logicielle et tout ça, c'est Roll20 qui lui demande juste un navigateur de se connecter sur la partie et puis de laisser passer. Je sais pas ce que vous en pensez un peu les autres de mon analyse. On va faire juste un petit tour de table pour que tout le monde parle en même temps. Si je demande à Chronomancien, un peu le...
Moi je suis un pro Fantasy Ground parce que donc ça fait longtemps que je joue avec, mais j'avoue que depuis quelques années, Bouga, enfin le travail qu'il a fait sur les frameworks, du coup ça me fait un petit peu, enfin ça me fait pas changer d'avis, mais en tout cas, enfin si ça me fait changer d'avis sur MapTool, parce que MapTool je l'avais utilisé donc il y a 6 ans. Le problème que j'avais avec cet outil, c'est que j'avais l'impression vraiment d'être en effet devant un ordinateur. Alors qu'avec Fantasy Ground, toute l'interface Windows classique, Windows ou Mac, bref, toute l'interface micro disparaît derrière le design de Fantasy Ground. C'est-à-dire, on n'a plus trop l'impression d'être devant un ordinateur, mais plutôt...
C'est très intéressant, ça, ouais.
On se rapproche un petit peu de l'ordinateur se fait oublier quoi. On a sa fiche de personnage, on a des dés en 3D, c'est tout con, mais ça se rapproche vraiment plus.
En termes d'immersion, pour moi, Fantasy Ground, en termes d'immersion, au vu de ses graphismes et de ce que tu es en train de dire, Chrono, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau, quoi.
C'est un peu comme si une partie autour d'une table, tu décorais ta pièce.
Voilà, c'est un peu ça.
Mais maintenant qu'il y a des frameworks, donc parce que moi j'avais testé MapTool, il n'y en avait pas. Maintenant qu'il y en a sur MapTool, on se rapproche quand même pas mal. Donc si le MJ fait un petit peu d'effort à mettre une belle map ou un bon fond d'écran ou quoi que ce soit comme ça, on a aussi dans MapTool maintenant un visuel très très satisfaisant.
Bouga joue à une partie des masques de Nyarlathotep sur MapTool et ça vaut le coup d'aller voir sur YouTube parce que franchement c'est super sympa avec les images en fond. Tu vois, imagine toutes les images, tu vois,
que
t'as récupéré sur internet de New York sous la neige et tout, et puis hop, t'as tes petites vignettes de personnages tout autour. Enfin franchement
c'est super.
Ça a de la gueule.
Et d'ailleurs avec MapTool, ouais, il y a un outil qui s'appelle Token Tool, enfin qui est distribué par les mêmes, hein, sur le site de MapTool, qui permet de faire simplement des petits tokens, donc des petits pions. Voilà, enfin, il y a des petits outils comme ça qui aident à la conception de.
Si t'es un peu dans l'informatique, là, la petite bonne femme que vous avez vue, en réalité, j'ai pris tous les portraits qu'il y avait sur Tok. J'ai fait une petite macro sous Photoshop qui le découpe, qui fait le bord et tout ça, et hop, ça l'a fait tout seul pour tous mes tous mes portraits. Bon voilà, c'est un peu compliqué, mais ça c'est, si vous voulez, je l'expliquerai dans les forums. De ton côté, Sébastien.
Mais de mon côté.
Les quatre panels.
Ouais, plutôt tout à fait d'accord avec toi. Donc, mais comme je disais, avec notamment en ce moment, mais vraiment une petite préférence. Maintenant, je m'oriente vers Fantasy Grounds, hein, vous l'auriez deviné. Et mais surtout, enfin, vraiment aller. Je vais mettre un petit point en plus. Aller vers le logiciel qui vous fait envie et n'ayez pas peur des difficultés techniques. Par exemple pour Mac, oui. Qui paraît un petit peu moins. N'ayez pas peur parce que sur JDR virtuel, on a une communauté des gens qui s'y connaissent très très bien sur tous ces logiciels et qui sont prêts à vous aider quoi qu'il en soit.
Ah mais c'est dans l'heure. Hein. Franchement.
Complètement.
On pose une question. Moi j'étais bloqué, je sais plus trop sur quoi parce que j'avais mis un token au mauvais endroit. Dans l'heure j'ai eu la réponse. Bon c'est souvent Bouga.
Ouais mais pour ma part. Ouais.
Mais enfin ce qu'il faut se dire c'est que si, et c'était pas mon propos, mais ça vaut ce que ça vaut. Si j'ai fait peur à des gens pour le côté technique, c'est absolument pas bloquant parce qu'il y a forcément une super communauté qui va vous aider. Ben c'est jamais bloquant.
Ouais, et moi c'est vraiment mon retour d'expérience, parce que moi vis-à-vis de Fantasy Grounds, je me bloquais, ou même Maptool, quand je me bloquais, parce que je pensais que c'était compliqué, mais au vu des aides qu'on m'a apportées, effectivement on a des réponses rapides. D'ailleurs, je peux notamment, vu qu'ils sont présents, remercier Marc-Jean et Chronomancien qui apportaient des réponses à mes questions. Donc voilà, n'ayez pas peur, enfin que ce soit pour ces outils-là ou pour les autres ou des choses, des questions que pourrait vous amener ce podcast.
Ah ouais, non, franchement, c'est top.
Faut surtout pas hésiter sur les sites.
Et puis pas hésiter non plus à chercher ce qu'il y a déjà sur le forum. Il y a déjà une partie des réponses déjà sur le forum. Donc voilà.
Très honnêtement, moi, je suis pas le genre à lire les book and règles de jeux de rôle classiques de A à Z. Le tutoriel sur Maptool de Bouga, je me suis assis devant mon PC pendant 2 heures et j'ai pas bougé et je l'ai regardé parce que en plus c'était assez dynamique, c'est bien foutu. Donc très honnêtement, c'est pas du tout bloquant. On va juste terminer du côté de Simon Lee, si t'as des retours à faire sur les 4 produits.
Alors moi je suis plutôt d'accord avec un peu tout le monde. voilà, non mais honnêtement, pour d'accord. Moi, Maptool, c'est vraiment l'outil qui te permet de faire le plus de trucs. Après, Maptool, pour moi, c'est un peu comme Linux, si tu veux. Grosse communauté, tu peux tout faire. Ça a l'air très ésotérique si t'es pas dedans. Mais une fois que t'es rentré dedans, ça passe très très bien. Moi j'ai une grosse préférence par contre
faire ce qui est encore là. Non, c'est très juste que
si je peux me permettre et donner mon avis.
Bien sûr.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Simon. Et j'ai déjà joué en utilisant Maptool et je serais prêt à recommencer. Parce que si le maître connaît son produit, alors là, il n'y a aucun souci.
Voilà. C'est vrai pour tous les plateformes.
Et franchement, le travail qui a été fait sur le ruleset de Cthulhu est absolument phénoménal. Je l'ai suivi et je suis chapeau bas devant. Mais quand je joue à Maptool, il me manque les dés. Rien que le fait de saisir mes dés et de les jeter me fait, comme le disait Chrono tout à l'heure, oublier mon écran.
Alors, un truc très important, quand on disait qu'on peut faire des mix, moi, j'exclus pas le fait que les joueurs puissent jeter les dés de leur côté.
Oui, c'est pour ça que Marc-Jean te dit ça, parce que sur Fantasy Grounds, tu prends tes dés toi-même avec ta souris et tu les jettes.
Ah oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je peux.
Ah ouais, mais je peux
jeter mes dés sur ma table.
C'est pas cool, attends.
Ah bah, s'il y a le bruit. Il y a le bruit.
Ah, si t'es tout seul à jeter tes dés, c'est quand même assez stérile comme image.
Bah, moi, perso.
Si en plus t'as la pizza à côté Et alors là, c'est mort. Il faut que les autres les voient. Et dans Fantasy Grand, tu prends tes dés et tu les lâches.
Et tu peux masquer aussi ton jet de dés.
Oui. La majorité des outils permettent ça, ouais, effectivement.
Donc on a fait un petit tour.
Et donc pour terminer rapidement avec parce que moi honnêtement j'ai une préférence pour Roll20 pour sa simplicité. Tu peux inviter n'importe qui, quelqu'un qui n'a jamais joué à du JDR virtuel, quelqu'un qui connaît même pas ce que veut dire token ou quoi que ce soit d'autre. Il a juste besoin d'ouvrir sa page internet.
Parce que je rebondis quelqu'un. Là-dessus, c'est que ce qui m'a gêné dans certaines parties. J'en ai pas fait beaucoup, hein, mais ça m'a déjà gêné un petit peu. C'est dès qu'on passe dans la technique. C'est-à-dire que si les joueurs en face, ce sont pas des joueurs qui sont habitués, parce qu'il faut quand même que les joueurs, faut que le MJ soit habitué, mais il faut que les joueurs soient habitués. C'est trop nul. La partie est pas trop nulle, mais c'est trop nul parce qu'on fait monter la sauce, on fait monter l'ambiance, on a des super plans, des images, on voit à quelle gueule ont les gens et tout ça. Et là, d'un seul coup, on fait machin, et au fait, comment on envoie un dé dans Rollisteam? Et là, bah voilà. Ah non, mais alors tu tapes exclamation 4D10, machin et tout ça. Donc, pour moi, l'important pour les premières parties, que ce soit en tant que joueur ou en tant que gardien, c'est à minima d'avoir lancé le logiciel, on peut toujours le lancer pour soi-même, et d'avoir un peu repéré, avoir farfouillé. Alors, c'est plus facile pour Roll20, parce que Roll20, t'as pas besoin de le faire, parce que t'as rien à faire de particulier.
De la même manière, t'as les codes aussi, enfin t'as les...
Pour lancer un dé quand même.
Pour lancer les dés, quoi. Je préciserai pour Rollisteam ou Rollistic, on peut le lancer deux fois le logiciel, c'est-à-dire une fois en tant que MJ, et une fois en tant que joueur. Oui.
Tu peux simuler le fait.
C'est très bien pour le MJ qui veut tester pour voir ce que ça donne, le brouillard de guerre par exemple. C'est-à-dire il swap de son Rollisteam MJ au Rollisteam joueur et comme ça il peut un peu percevoir les effets du brouillard de guerre ou les effets des tokens qui bougent, enfin de tous ces trucs là quoi. C'est pas possible sur Fantasy Grand par exemple.
Ah si, ça l'est. Si ça l'est. Moi je l'ai déjà fait, ça l'est.
Sur le même PC?
Ah oui.
D'accord.
Ah moi j'avais eu un blocage.
Moi j'ai déjà récemment testé, et c'est possible.
Ah bah faut que je reteste alors.
Ce qui veut dire, ce qui est intéressant, c'est que la plupart, j'irais même si tu crées deux comptes sur Roll20, c'est peu.
Non mais tu as un bouton qui te permet de voir ce que les.
Ah oui c'est vrai.
Que les joueurs voient. Alors,
la plupart des outils te le permettent. Pas forcément Rollisteam, mais c'est vrai que la plupart, comme tu disais, permettent de se lancer en même temps. Vas-y, moi je t'ai coupé.
Non, je sais plus du coup ce que je voulais dire.
Même si on forme des grandes.
Non. Oui, alors je vais faire le philosophe. Au final, il n'y a pas de bonne ou de mauvais outils quoi. Au final, on.
Bah là, on a parlé que des meilleurs.
On a parlé des plus grands, des plus connus.
Si t'es nul en informatique, voilà.
Roll20 pour ceux qui connaissent pas trop l'informatique, pour les ceux qui veulent se pencher dans du code et faire des trucs absolument extraordinaires.
Et les gens qui aiment l'informatique mais qu'ils ne veulent pas se pencher dans l'extraordinaire en ayant une belle interface graphique, c'est
Fantasy Grand.
à noter une chose pour Fantasy Grand, celui qui est vraiment courageux, qui l'informatique ne fait pas trop peur. Il est possible donc de se créer son propre rollset pour son propre jeu. Mettons, j'imagine un auteur de jeu de rôle peut très bien créer un rollset dédié à son jeu avec des fiches de personnages, tout ça. Donc c'est écrit en XML, en LUA. Et voilà, c'est possible et de le distribuer.
Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est très très intéressant de sa remarque, c'est que la plupart de ces outils ne demandent pas d'acheter un logiciel pour développer son settings de règles.
Ah mais aucun d'ailleurs.
Ce sont la plupart du temps des fichiers textes, parce que là on a parlé d'XML et tout ça parle pas forcément à tout le monde, mais ce sont des fichiers textes qu'on édite avec un petit notepad, un petit bloc-notes. Alors quand je dis ça paraît simple, c'est compliqué.
Non, ouais, c'est pour ça qu'à la limite, celui qui sait pas ce que c'est qu'un XML, de toute façon, il se lancera jamais dans la création d'un... Parce que c'est ardu, la création d'un
la recette, c'est ce que vous pouvez faire un peu pour découvrir, comme moi je l'ai fait, c'est prendre un, récupérer celui par exemple de Bouga, l'ouvrir avec un outil de désarchivage comme WinZip ou des choses comme ça, 7-Zip hein, qui est gratuit, et voir ce qu'il y a dedans. Et vous verrez très rapidement, c'est ce que par exemple ce qu'on avait fait pour l'outil de création de personnage qui s'appelle Biaki sur Cthulhu. Bêtement, vous ouvrez le truc et vous voyez qu'il y a des choses que vous comprenez. Vous faites une recherche santé mentale. Ah oui, ah, santé mentale, ça apparaît là. Ah d'accord, donc bon. Après, je suis d'accord, c'est pas simplissime, mais simplissime. Mais voilà, je pense qu'on vous a fait un peu un panel des quatre plus gros. Ces quatre, donc à part Rollisteam, apparemment, il y a des soucis sous Mac. Tourne bah, Roll20, ça tourne sur navigateur, donc vous pouvez même le mettre sur une tablette ou quoi que ce soit. MapTools et FantasyGrounds, ça tourne sur Mac sans aucun souci, hein, je crois. C'est ça ?
J'ai pas de Mac, j'ai pas testé.
Non, rien. Bon, bah, on va dire que ça fonctionne, de toute façon, ils le vendent FantasyGrounds pour Mac.
MapTools, j'ai fait un test sur mon Mac, ça tourne.
Ça tourne. Donc là, on a fait un peu le tour, c'est un peu le bordel, mais c'est ça aussi, mais c'est intéressant parce qu'on couvre pas mal de sujets. Donc on a vu un peu comment ça marchait. Alors, on a parlé un peu déjà des communautés, on a pas mal parlé de chidère virtuel. On fait les mecs, il faut m'envoyer mon chèque. Parce que, avec toute cette pub.
Non, mais il y a aussi mon frère, hein, de Virtua JDR.
Vu la vie que vous m'avez fait, c'était juste pour des choses.
Je suis notamment sur les. Rien n'empêche d'être en. Ce qui est mon cas, d'être sur les deux communautés. Hein.
Ah, mais les admins de. Enfin, je sais que. Moi, je suis chez aussi Virtua JDR, hein, de toute façon.
D'accord.
J'ai un compte chez eux.
Le n'empêche
enfin,
pas.
Voilà, nous sommes des confrères, et puis c'est tout. Enfin, c'est une passion commune, voilà, il n'y a pas de.
Je les avais trouvés plus dans la déconne, mais c'est perso.
Ah, ils sont peut-être plus. Club, petit club, quoi, comme ils se présentaient, quoi. Donc, nous, on a
comme ils se connaissent, l'effet que j'ai eu, c'est que chez JDR Virtuel, j'ai pas eu l'impression de me retrouver dans une réunion de potes où je me suis trompé de porte et j'arrive et je connais personne. Alors que sur Virtuel JDR, je suis plutôt arrivé sur des potes qui se rencontrent et qui se croisent tous les soirs. Ça me rappelait un peu, il va être content Marc, ça me rappelait un peu les channel TeamSpeak quand on fait du MMORPG. C'est-à-dire que les gens se connaissent et que quand on arrive, il faut faire sa place. Sur JDR Virtuel, j'ai pas eu ce problème-là. Donc on a fait le tour. Donc les communautés. Alors, il y a des bons plans dans les communautés, juste pour faire un point parce que je l'ai noté sinon je vais l'oublier. Mais il y a aussi des mauvais plans, enfin un mauvais point. Et ce mauvais point, personne ne peut le réfuter, c'est que comme autour d'une table, il y a plus de joueurs que de MJ, c'est un peu les MJ qui vont choisir ces joueurs. Alors, vous me direz, c'est un peu normal, on a des affinités, on les a pas. Mais là, enfin, ce que je veux dire, c'est que la première fois où vous êtes joueur, dormez bien avant, vous êtes à votre top. Parce que, bêtement, la seule impression que vous allez donner, c'est la partie. C'est-à-dire que on va pas vous voir, vous allez pas acheter les gens en achetant des super 4-quarts ou en amenant une super bouteille d'un grand cru classé pour la partie. La seule impression que vous allez laisser, c'est là où vous êtes dans la partie. Et soyons très honnêtes, moi personnellement, dans les parties que j'ai faites, je sais qu'il y a des joueurs avec qui j'étais joueur, avec qui je jouerai, moi en tant que gardien et en tant que joueur. Ah, il y en a qui a un souci là.
Oula.
Bon, il y a quelqu'un qui habite près d'une rame de métro qui habite. Donc, moi, c'est juste la remarque que je ferais et on me l'a dit. Hein, c'est toi, je crois, Chronomancien.
Ah, une nuisance, pourtant, mais.
Non, mais ça s'est arrêté. Bon. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais le MJ a quand même des facilités pour choisir les joueurs.
Mais c'est ce qu'il faut.
C'est
hein.
Vrai. Tu as raison. Parce qu'on est avec des inconnus la première fois qu'on joue. Et là, il y a une seule face à imposer. C'est roleplay.
Alors, je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que vous êtes d'accord aussi que ça peut virer parfois à la sélection arbitraire, ce qui est normal?
Bah, je pense qu'il faut automatiquement. Enfin, il faut faire une sélection. Il faut faire une sélection, mais après, il y en a qui sont pro roleplay, puis il y en a d'autres qui sont pas spécialement roleplay. Je veux dire, tout le monde ne peut pas faire des super gros discours, de faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui jouent en mode texte parce qu'ils sont peut-être un petit peu timides, et d'autres qui jouent en vocal. Mais pense qu'il y a un peu de tout. Mais il est, à mon avis, il est nécessaire de toujours faire une partie test ou un petit one shot avant d'entamer une campagne. Ne serait-ce que pour savoir que bah là, on s'entend pas, on n'a pas tous la même façon de jouer.
Les tables sont les mêmes objectifs. Tellement différentes les unes des autres.
Oui, non mais enfin les gars, je suis d'accord avec vous. Mais le coup, je suis désolé de couper court, mais le poncif du tous les joueurs sont différents, pif paf roulade, oui, ok. Ce que je veux dire, c'est que quand on est en JDR virtuel, comme la personne, on la voit pas, on sait pas quelle est son attitude physique autour de la table et tout ça, et que ben on va pas intituler des parties dans les forums RP ou PRP, je crois pas que ça existe, ça, roleplay ou pas roleplay ou
non
voilà. C'est plus délicat. Et
non, quand on crée une campagne ou un one shot, on peut préciser. Moi, je pousse un peu à préciser, en tout cas à donner une indication.
Alors, c'est
quant au type de scénario.
Au niveau de l'âge,
ça peut jouer aussi.
L'âge des joueurs, c'est extrêmement des joueurs va influer beaucoup. Tu prends une table de trentenaires, tu prends une table de jeunes gens, jeunes adultes de 15-20 ans. C'est clair que les tables sont sensibles. Quand je disais, tu disais c'est un cliché, mais c'est un vrai cliché ça. Les tables sont extrêmement différentes de l'une.
Bah oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis que c'est un cliché, c'est pas que c'est faux, c'est juste qu'on le sait tous.
Voilà, mais du coup, pour rebondir un peu avec ce que tu disais sur la première impression que tu donnes de toi, c'est en jeu, c'est ton personnage au final. Tu as pas de, on voit pas ta dégaine, on voit pas ta tête, etc. Enfin, sauf si, en partie vidéo, mais globalement, on voit pas ta tête, on voit pas ta dégaine, quoi. En général, de mon point de vue, de l'expérience que j'ai, les premières parties sont toujours très timides. Très 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 timide, dans le sens où du coup tu connais pas trop les gens avec qui tu es et t'essayes évidemment de pas trop faire le con et il y a une certaine distance, t'as pas cette convivialité de la table quoi.
Ouais,
c'est vraiment ça le.
C'est encore plus roleplay.
Et du coup,
en fait, on se débarque immédiatement de la vie extérieure pour incarner.
Voilà.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord.
Non, moi je suis d'accord avec ce que tu dis.
Ça ressemble pas trop à ce qu'on fait actuellement là. Je vais donner
la main juste chronomancien, mais je rebondis sur ce que dit Simon Lee et Marc, je suis pas d'accord avec ton interprétation de ce qu'a dit Simon Lee. En ce sens que pour moi, quand tu te retrouves autour de la table, moi les parties que j'ai fait, pourtant c'était des joueurs qui se connaissaient déjà. Le côté on fait que du roleplay et tout, c'était plutôt que du timide. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des gros blancs, genre vous arrivez devant l'auberge, et là, bon, moi je parle tout le temps parce que j'aime bien parler, donc souvent je parlais, mais les fois où je me suis forcé à ne pas parler, on avait au bout d'un moment, on disait, au fait, machine, machin, t'es là, tu vois. Donc le coup, on se lâche tout de suite, je pense qu'on se lâche plus tard, et que ce qui est le gros intérêt, c'est qu'on voit pas nos têtes, donc on met pas d'étiquette sur les gens. Ça c'est très important et c'est super intéressant dans le JDR online, c'est qu'on va pas foutre des étiquettes, machin, bidule il a une sale tête, machin il est gros, machin il fume des joints, machin il boit de la bière. Donc voilà, pour moi c'est ça, je te redonne la main, excuse-moi chronomancien.
Non, mais c'est ouais, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, au point de vue de c'est vrai qu'en la première partie, des fois, on peut être en effet tous timides, mais il y a quand même, avant de jouer la première partie, il y a quand même la création du personnage. Mine de rien, ça permet de, parce qu'on peut faire une création de groupe, c'est-à-dire on peut faire une soirée juste pour créer le personnage à plusieurs et tout. Ça fait un peu comme on fait là, donc on discute tous et puis déjà on parle déjà plus facilement là qu'au tout début. Et puis rapidement, voilà, on fait même si on est un petit peu timide. Voilà, on fait connaissance avec les autres, on reconnaît un petit peu le son de la voix, parce que ça aussi, ça peut aussi être un petit peu dur au tout début.
Ah oui, c'est très dur au départ, personnes, c'est pas à qui
et on reconnaît pas la voix.
Voilà,
donc, on sait que quand la voix est saccadée, c'est Marc Jean. Voilà, donc il y a plein de petits trucs comme ça qui. Non, mais on
C'est surtout rien,
c'est peut-être le MJ qui est peut-être un peu plus timide même. Alors, parce qu'il sait pas, il connaît pas les joueurs. Mais voilà, je pense que une première séance qui est plus pour la création du personnage, bah, ça permet déjà de faire un petit peu connaissance avec les autres joueurs, avec le groupe, et puis voilà de.
Et alors là, le gros intérêt, c'est qu'une partie de JDR virtuel, c'est pas des gens qui viennent chez vous. Donc là, on a une grosse facilité pour monter la première partie ou la partie de création de perso. C'est juste des gugus qui ou des nanas qui vont se mettre pendant 3 heures autour de leur PC. Donc si ça marche pas, si c'est que des cons qu'il y a dans votre équipe, ou alors si le MJ c'est une tanche, bah voilà. Vous avez passé 3 heures.
Très exactement.
Ou au bout de 2 heures, vous dites, oh, il y a ma connexion qui déconne, vous faites comme Marc-Jean, là. Je passe dans un tunnel. Et puis vous vous barrez.
Bah justement, je rebondis là-dessus. C'est pour ça que c'est important de commencer par faire un one shot avant de faire une campagne. Parce que sinon, on obtient des fois des joueurs qui, au final, se sont engagés pour une campagne de l'appel de Cthulhu, les masques de Nyarlathotep. Je dis ça, mais voilà, parce qu'on sait. On est au TOC. Et au final, bon, bah, le MJ, bon, ne correspond pas trop à ce qu'on aime comme jeu de rôle, quoi, voilà, comme manière de masteriser, ou alors, à la limite, c'est l'inverse, c'est le MJ qui a un joueur, bon, bah, lui, il arrête pas de faire des conneries, il balance des bâtons dynamiques partout, bon, au bout d'un moment, il en a marre, bon, bah, avec un one-shot, on découvre un petit peu la manière de jouer donc du joueur ou la manière de masteriser du MJ et bon bah voilà les dégâts sont limités sur une séance de séance.
Pardon,
même si ça annule pas complètement, tu peux pas sur connaître non. complètement quelqu'un sans,
non, non,
sans
non.
avoir
mais t'as déjà une petite idée avec... enfin voilà t'as déjà
je suis d'accord avec toi idée. Ça fait un filtre.
C'est juste pour éviter parce que on a eu des fois des problèmes donc des MJ qui sont lancés donc ils sont tout préparés tout ça ils ont préparé leur campagne ça a mis un certain temps et tout ça ils lancent leur campagne avec des joueurs qu'ils ne connaissent pas et bah au bout de 3 séances, il y en a la moitié qui reviennent plus, ou alors qu'ils ont toujours des excuses, je suis pas là, bon ça peut arriver, mais il y a des fois c'est simplement parce que ça leur a pas plu, et ou parce que ils ne s'attendaient pas à avoir à avoir ce type de jeu. Donc c'est pour ça qu'il faut être le plus clair dans ce que l'on propose, dans la description de sa campagne ou de son one shot, faut être clair, et puis il faut tester un petit peu les joueurs, non pas les personnages, mais les joueurs, quoi, pour voir si c'est compatible. Je trouve que c'est important pour pas décourager le MJ et le joueur. Et le joueur qui va être dans une partie, bon bah le MJ est, je sais pas, il va faire que du simulationnisme, enfin voilà, il va être très 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 particulier, bon, alors que l'autre il est pro narrativisme, bon bah voilà, ça va pas le faire.
On devait pas parler de narrativisme dans ce podcast encore, non, tout le monde en parle à chaque fois, non, t'as déconné Chronomancien,
fallait pas m'inviter.
Bah c'est super. Bah,
voilà, c'est juste un important, je pense, pour pas se décourager, quoi.
Il y a les mêmes écueils que dans le jeu de rôle. Donc, ouais, voilà, c'est pas dans une campagne avec. Oui. Donc, alors, on va juste faire un petit bilan parce qu'il y avait quelqu'un dans les forums qui m'avait posé plein de questions. C'était toi ou pas Non. Comment tu t'appelles? Ladzap, non?
Oui, c'était moi qui avais mis quelques sujets sur la table.
Je reprends dans l'ordre parce que j'aime bien ne pas rater les choses. Donc, des questions d'ordre matos. Donc, ça, on a répondu. Les logiciels, on a répondu. Non, je pense. Ça répond à tes questions?
Ah oui, je pense.
Ouais. Les questions les plus universelles, bah, c'est ceux qu'on a choisi là, hein, parce qu'on a parlé des quatre. Je dis pas que je connais tout, hein, c'est loin de la mode idée, mais de ma vision, vous avez une vision un peu, je dirais, filtrée. Comme ça, vous n'avez pas non plus la foule de tous les outils.
Il y en a une quarantaine, donc forcément.
Voilà, c'est horrible. Question intéressée, donc Mac et PC, on y a répondu. La simplicité d'usage, ça, on y a répondu. Comment ça marche? Donc voilà, la simplicité de prise en main. Les communautés virtuelles, donc voilà, on t'a cité les deux plus grosses. Je sais pas s'il en existe d'autres en France.
Oui, donc on en existait une autre, mais je l'ai plus en tête. Je sais pas s'il fait vraiment que du virtuel ou s'il mélange pas avec du forum, mais.
Parce que l'intérêt de JDR virtuel et de virtuel JDR, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Donc potentiellement, vous pouvez jouer dès vendredi. Existe-t-il donc le virtuel du caca?
Ça, d'ailleurs, c'est un plaisir en tant que maître de jeu, d'avoir immédiatement un bassin de joueurs disponibles,
complètement
plus étonnants et plus sympathiques. Je dois admettre que je n'ai rencontré que des gens charmants. Et ça, bah, c'est pas partout.
J'ai fait un petit tour sur JDR virtuel. J'ai pas vu tant que ça Partie de Cthulhu proposer un one shot.
C'est parce que j'arrive.
Le maître se lance sur l'appel de Cthulhu qui est étant un jeu difficile à masteriser. Bah,
actuellement, là, il y a 4 campagnes de l'appel de Cthulhu.
Mais il y a des campagnes qui tournent hein, quand même, qui sont sévères et profondes.
Le problème, je dirais, pour l'appel de Cthulhu, c'est que les one shots, c'est long. Un one shot à Cthulhu, ça peut être 3-4 séances de 4 heures. Donc, il faut vraiment, c'est un domaine que je connais pas mal, les scénarios courts, c'est très rare.
Et le contraire, alors que bizarrement, on meurt rapidement, hein,
c'est malin. C'est malin.
Pas si rapidement que ça, Chronos.
Mais je ne saurais tarder à revenir pour proposer, moi, des petits one-shot Cthulhu, parce que j'ai envie de voir ce que ça donne côté MJ que je n'ai pas testé jusqu'à l'heure actuelle.
Donc, on verra ce que ça donne côté joueur, le vonve.
moi en tant que joueur ou toi en tant que joueur? Moi en tant que joueur, il y en a qui ont déjà.
Toi en tant que maître.
Ah oui, moi en tant que maître, mais c'est la classe. Alors, le virtuel, jusqu'à quel point mettre des plans, des images? Donc, ça, c'est aussi le gros intérêt de ce qu'on disait, c'est que par exemple, des gens comme Sans Détour ou pas mal de boîtes d'édition qui te fournissent le PDF avec les F de jeu, ou TOC, qui te les fournit aussi, c'est quand même vachement utile, parce que peut-être. Si tu utilises que bêtement des plans comme ça, t'as rien à créer. Mais jusqu'où aller, car après tout, ça reste du bon vieux JDR et pas du MMO. Donc ça, on a répondu. Esclave de la technique, on a répondu. C'est un travers où il faut faire attention. De toute façon, tu vas très rapidement le savoir si l'outil, t'arrives à le prendre en main facilement ou pas, hein, très honnêtement. Ou de toujours courir après l'environnement, avantages et inconvénients. Donc on va regarder un peu les avantages et inconvénients. Alors les parties virtuelles sont peu évoquées. Ben, en réalité, c'est qu'il y a peu de passerelles à l'heure actuelle entre, comme c'est une communauté JDR virtuelle et virtuelle JDR, ce sont deux communautés, ça demande, enfin les gens qui y sont pas mal investis dans les parties. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, moi, ne connaissant pas les deux communautés, j'ai pas fait de passerelle.
Ce qui est étonnant à la fois et chronomancien, ce qui est étonnant, et Chronomancien pourra témoigner, je pense, c'est la rapidité à laquelle ça s'agrandit.
D'accord.
N'est-ce pas, Chrono?
Bah, là, on doit être 3100 membres, je pense, en sachant que, comme dans tous les forums, il y en a qui viennent,
combien
qui,
de temps
qui ne reviennent pas, mais je pense qu'il y a au moins, il y en a 10% qui sont réellement actifs. Quasiment
et, tout en plus, et en plus, il faudrait qu'en chronomancien dit actif, c'est-à-dire que tu as potentiellement.
Moi, je mesure ça.
Jouer une fois par semaine.
Oui, voilà. Oui.
Donc, c'est énorme.
Je mesure ça au nombre de bandeaux de campagne. Où la première fois que je me suis inscrit au site, il y avait quoi d'autres campagnes. Et quand je vois maintenant la liste qui s'affiche, je me dis c'est un truc incontournable maintenant, de toute façon. Je crois qu'on va tous y venir en fait.
Bah moi quand j'ai créé ce forum, c'était j'étais vraiment agréablement surpris de ma découverte personnelle de qu'on pouvait faire du jeu de rôle à distance, et je m'étais dit mais ça c'est ma solution, c'est pas la solution pour tout le monde, mais moi c'est ma solution qui m'a permis de refaire du jeu de rôle après 10 ans d'abstinence. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Bon, moi je suis un quadra avec des enfants, bon voilà, et il y en a beaucoup qui ont pareil des difficultés à pouvoir jouer sur table. Et j'avoue que je pense que maintenant j'aurais même légère préférence pour le jeu de rôle virtuel, même si les parties sur table sont très bien.
Le truc qu'il faut se dire aussi pour les communautés, c'est que moi, celle que je fréquente le plus, c'est JDR virtuel, et on est un peu comme sur TOC, c'est-à-dire qu'on est entre gens de bonne famille, de bonne aloi, qui ne s'insultent pas. Bon, sur TOC, il n'y a que Vonge qui insulte les gens, mais c'est plus rare maintenant, parce que les gens sont plus calmes. Et voilà, vous êtes tout de suite... c'est pas faux. vous êtes dans une communauté qui... pas de private joke, pas d'exclusion débile, pas de rite de passage ou sortir des conneries. Enfin, voilà, on est tout de suite entre rôlistes pur jus.
Et voilà. Oui, tout à fait. Comme dans tout forum, il y a eu des fois deux, trois clashs, mais en général, ça se passe bien parce que voilà, on n'est pas
c'est en bonne intelligence.
Voilà, ouais, ça c'est.
Et comme on est tous là pour jouer, finalement.
À la fois, c'est marrant parce que ça fait parler vieux.
Alors moi, par exemple, on parlait d'âge. J'ai joué des parties avec des gens et ça m'intéresse pas. Mais par exemple, je suis incapable de savoir quels âges ils avaient. Et je m'en fous. Et franchement, c'est top. Parce que on va arriver à un point très important, parce qu'il est quand même déjà tard. Ce sont les plus et les moins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour de table. Vous voyez peut-être pas, mais dans l'ordre, il y a Chronomancien, puis moi, puis Latzap. Bon, toi, tu répondras pas forcément. Ou alors si, tu pourras dire les plus et les moins que t'imagines. Marc-Jean, puis Sébastien, puis Simon Lee. Et donc, on va chacun essayer de donner... On va commencer par un plus. Chronomancien, un plus. En essayant de les faire bref.
Donc, on peut, en jeu de rôle virtuel, on peut espérer, comment dire, pouvoir jouer à un peu n'importe quel jeu, puisqu'on n'a plus de limite géographique. Ça veut dire que quand on tape dans une communauté assez grande, on peut jouer à des jeux comme Apocryphe, on peut jouer à des jeux très très confidentiels, vu qu'on n'est pas limité à son petit cercle de copains voisins.
D'accord,
quoi.
Donc découvrir des nouveaux jeux. Moi, mon point fort, c'est con, mais c'est avec TeamSpeak, le fait de pouvoir créer des petites salles. C'est-à-dire qu'avec un double clic, vous séparez des joueurs, d'autres joueurs de votre partie. Et franchement, pour avoir joué dans des appartements de 16 mètres carrés, quand il faut s'enfermer dans les chiottes avec les autres joueurs pour dire, genre, vous sortez de la pièce et les autres vous écoutez pas, je trouve ça absolument topissime. Et ça fait que les séparations de groupes sont géniales. Suivant, Latzap.
Ben, je pense que personne ne me piquerait mes figolus.
c'est vrai.
C'est vrai.
Marc, c'est important. C'est un seul plus ou on en aura un plusieurs plus, ou plus, il faut lui dire
on tournera,
tous les plus
on tournera
tout de suite.
Un seul plus.
D'accord. Alors mon premier plus, c'est un seul. Putain, accordez-vous les mecs.
On tournera. Plus. Tu pourras en faire, tu pourras en donner plusieurs à toi.
Ok. Mon premier plus, c'est que en tant que maître de jeu, je peux enfin dire je mène une campagne à son terme. Pourquoi ? Parce que je joue régulièrement. Et que si je décide de mener, par exemple, les masses de Nyarlathotep avec un groupe de joueurs autour d'une table, je sais très bien, au fond de moi, que je l'emmènerai jamais jusqu'au bout, cette campagne. On jouera rarement. Passer un certain âge avec des responsabilités, c'est impossible à faire dans la vraie vie.
Ok, super. Sébastien, de ton côté, un plus du général actuel?
La facilité de monter des parties, enfin la facilité d'accessibilité au jeu de rôle.
Alors tiens, je me permets juste de rebondir, il y a un outil dont on n'a pas parlé, c'est le Doodle. Le site Doodle qui vous permet d'organiser des rendez-vous avec les gens, où les gens rentrent finalement leur disponibilité. C'est aussi un outil qui est très utilisé. Et qui donne un côté super pratique. C'est comme ça qu'on a monté ce podcast. Donc toi, Sébastien, c'est la facilité de monter des parties, quoi.
Ouais, de monter des parties, l'accessibilité au jeu de rôle, qui pour moi, depuis 15 ans, moi, j'avais pas fait de jeu de rôle. Donc
la vache. Donc ouais. Ça a bien marché. Simon, ouais, Lee, ton côté?
Ouais, alors moi, c'est tout con, mais c'est pour l'immersion. C'est-à-dire que je n'ai jamais été autant dans un jeu que depuis que je fais du JDR virtuel. Car la voix des gens est associée non pas à leur tête, non pas à leur toc ou expression faciale, mais vraiment au personnage. Et il nous arrive même parfois, après, tu sais, quand on débriefe un peu de la partie, d'appeler les gens encore par leur nom personnage, parce que voilà, tu es encore dans le truc, quoi. Avec la musique, avec l'ambiance réellement que tu peux instaurer avec les outils que tu as, pour moi c'est le plus. Voilà.
Ok. Chronomancien, on va pas dire un moins, mais on va dire qu'est-ce qui pourrait être une un danger ou une limite au JDR virtuel.
Je vais juste avant rebondir juste sur le ce qu'avait dit donc Angel Dust, je crois, par rapport à l'accessibilité du jeu de rôle, c'est aussi la découverte du jeu de rôle. Il y en a qui ne comme dire qui n'ont pas la possibilité de faire du jeu de rôle du tout, enfin qui n'ont pas qui peuvent s'initier au jeu de rôle via du jeu de rôle virtuel. On en a eu plusieurs dans ce cas-là. Et c'est justement de rendre en effet accessible même à ceux qui n'ont jamais fait du jeu de rôle, quoi.
Alors, il est vrai que si Toc, par exemple, pour les parties, hein, je parle de l'appel au Toulouse, mais si Toc était, était plus en contact avec les parties, c'est vrai que ce serait très simple. Il suffit de diffuser les annonces de parties sur les trucs genre Facebook et tout ça, et vous touchez des milliers de personnes qui vont le voir et qui vont potentiellement peut-être s'y intéresser tout à fait.
Et sinon, bon, pour les parties négatives ou enfin les dangers.
Oui, ou les voilà, plutôt les dangers, parce que le négatif, c'est pas très intéressant.
Bah, le danger, c'est de comment dire je pense c'est qu'on est quand même devant un ordinateur, et si on n'a pas un minimum de discipline. On a vite fait, c'est pour ça que tu parlais de vidéos tout à l'heure, on a vite fait d'avoir des fois des joueurs qui vont surfer sur Internet en parallèle. Mmh. Tu vois. Et du coup, ça casse le rythme, ça décourage le MJ, et puis ça nous les brise, en gros. Donc, voilà. Je pense qu'il voilà, il faut être attentif à ça, faut faire attention. Voilà, bon, si on fait du jeu de rôle virtuel, on évite de s'amuser de surfer. Alors, à droite à gauche.
Mon point négatif rejoint un peu le tien. Moi, ce qui m'a pas bloqué, hein, parce que j'en referais, mais qui m'a un peu embêté, ce sont en effet les moments de plus personne parle. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Un, la ligne est coupée. Deux, ils sont tous barrés aux chiottes en train à un même moment. Je vais entendre les chutes du Niagara. Trois, en effet, il est en train de surfer ou quoi que ce soit. Moi, c'est ça qui m'a un peu gêné. Mais c'est parce que je suis peut-être un peu paranoïaque et j'ai l'impression que les gens font des trucs dans mon dos. Ou alors c'est peut-être parce que je suis pas rodé. Mais il en découle, moi, un danger que je verrais, c'est il faut que le MJ soit vraiment au top. C'est-à-dire que... enfin. Moi, dans ce que je cherche dans la partie, il faut que le MJ virtuel soit vraiment au top. C'est-à-dire que il puisse switcher, il puisse mener la partie et tout ça, parce que dès que lui fait baisser le rythme, comme on se voit pas, on aura plus de difficultés à se relancer les uns les autres. C'est mon point délicat. De ton côté, l'Adzap, qu'est-ce que tu verrais comme frein?
Oui, moi c'est... Ce qui me semblait effectivement un peu un risque, c'est qu'il y a un manque d'implication des joueurs et effectivement parfois des blancs. Et je pense que c'est pas forcément évident à gérer sans un travail préparatoire d'immersion, d'ambiance. Et je pense que c'est vraiment indispensable, comme ce que mentionnait Simon Lee. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'il faut faire un gros effort pour bien plonger les joueurs dans la partie.
D'accord. Ouais, non, tout à fait. De ton côté, Marc-Jean, un limitant ou un danger que tu verrais côté virtuel?
Alors, déjà, je dis qu'en tant que maître de jeu, il faut quand même de savoir s'entourer des joueurs qui vont bien. En 5 années, je n'ai eu à déplorer aucun de ceux que vous savez, mais je connais qui ont eu à déplorer ce genre de problème. Moi, le danger, je le vois plutôt côté maître de jeu, parce que comme tu l'as dit, Vonve, salopard, tu réclames de la qualité. Et ça, en tant que maître de jeu, ça va nécessiter une implication de tous les diables. Et chronomancien peut en témoigner, lui qui a joué déjà toute une partie des masques avec moi, et au moins 80 parties de Cthulhu qu'il a bouffé, et à chaque fois il est revenu. Donc, en tant que maître de jeu, ouais, tes joueurs, il y a une attente qui exige une préparation extraordinaire. Beaucoup plus intense qu'autour d'une table.
Ça
beaucoup
fait
plus intense, soyez-en sûr, maître des arcanes.
Je suis désolé de te couper, mais ça me fait penser à quelque chose.
Ouais, tant au niveau de l'audio
Attendez, Marc,
je t'en prie,
parce que là je parle. Il y a un décalage, je pense, avec ton micro. Le truc, c'est que ce à quoi ça me fait penser, c'est que il est très facile dans une table réelle de dire aux joueurs, bon allez, vous vous réunissez, qu'est-ce que vous allez faire et tout ça, parce que la prise de parole va se faire d'elle-même et ça sera beaucoup plus simple de parler tous en même temps. Alors que j'ai remarqué que quand on est au micro, c'est plus compliqué, parce que si tout le monde parle en même temps, c'est le bordel, parce que, un, comme vous disiez, on n'associe pas tout de suite forcément la tête de la la tête du personnage à sa voix, à la voix de la personne. Et c'est juste une limitation que je verrais, c'est le fait que on peut pas laisser les joueurs faire des plans sur la comète pendant, je sais pas, un quart d'heure. On peut pas leur dire, bon, faites ce que vous voulez. C'est un peu compliqué, je trouve. Donc je vais redonner la main maintenant, après ma remarque, à Sébastien, pour ton petit côté limitant, danger ou quoi que ce soit.
Alors, moi, je suis un petit peu d'accord avec ce que tu as déjà dit, c'est-à-dire que, ouais, on n'a pas trop en tant que maître de jeu, on n'a pas trop le retour des joueurs. On ne sait pas si ce qui se passe derrière, on ne sait pas si sur une table, on va réussir à voir s'ils accrochent ou pas, quoi, et on n'a pas ce retour-là visuel. Et j'irai une petite attention à faire gaffe, moi, aux grosses tables. Moi, je trouve qu'une table avec plus de 4 joueurs, ça commence à être justement, mais pour tout ce que vous venez d'expliquer, quoi, que il y a un certain, mais en plus, encore plus particulièrement pour du Cthulhu, qui est un jeu d'ambiance, comme on le sait. Donc, s'il commence sur du Cthulhu, et que si tu commences à avoir déjà plus le maître du jeu, déjà 5 joueurs, 6 joueurs, non, je trouve que ça fait vraiment beaucoup trop de monde. Moi, pour du Cthulhu, c'est 3-4 joueurs maxi. Et même, même pas de point de vue, même sans parler du point de vue MJ, même du point de vue joueur. Quand je suis joueur, j'aime bien qu'il n'y ait pas trop de joueurs non plus. Ouais, 3-4 joueurs, moi, ça me semble.
Pas être noyé dans la masse, ouais.
Ouais, parce que forcément, s'il n'y a que 3 ou 4 joueurs, quand tu es joueur, tu joues un peu plus. Quoi.
Super, très, très intéressant. Simon Lee, de ton côté ?
Ouais, pour rebondir, je crois que c'est Marc-Jean qui l'a dit, par rapport à s'entourer des bons joueurs. Alors, c'est évidemment vrai dans la vie vraie de tous les jours, mais d'autant plus sur Internet, puisque on a affaire à des gens complètement inconnus et physiquement dématérialisés. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le gars, il peut partir sans te laisser quoi que ce soit et t'as plus jamais de nouvelles. Alors que dans un club, t'as toujours cet aspect un peu physique, tu peux toujours aller le voir, lui demander qu'est-ce qui t'arrive, etc. Alors que sur Internet, du jour au lendemain, on peut dire le gars disparaît et pouf, voilà, disparaît. C'est des dangers un peu d'Internet.
Ça m'est arrivé, j'ai eu un joueur qui a décédé.
Ah la vache.
Ouais. Mais tu le sais pas. Sur le coup, tu le sais pas, quoi.
Devait jouer.
C'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de maquer un peu les communautés de jeux, par exemple, comme TOC, avec des forums comme JDR Virtuel. Parce que je dirais que plus. À moins que la personne disparaisse d'Internet, et qu'elle n'ait plus à y accéder. Mais plus on est investi dans différentes communautés, puis des choses, des forums plutôt de bon esprit, c'est-à-dire de partage, d'échange et tout ça, plus on aura de facilité à partager les expériences en disant voilà, moi j'ai fait des parties, c'était avec telle personne, ça s'est super bien passé, c'était sur tel forum. Et pas classer les gens, je dirais pas ça, mais avoir des retours. Les retours qu'on a sur JDR virtuel, c'est orienté JDR virtuel. C'est teinté de jeu de rôle, c'est teinté de chacun des systèmes, je suis d'accord, mais c'est orienté JDR virtuel. Alors que les retours, par exemple, qu'a fait Angel Dust sur le JDR virtuel sur TOC, ils étaient teintés de JDR virtuel, mais ils étaient dans l'univers de TOC. Et je les ai trouvés, c'est pas plus pertinent, c'est parce que je cherche mes mots, mais plus profond. Parce que c'était une personne qui faisait du JDR virtuel. Ouais, putain, je me suis fait avoir. Merde. Plus dol. J'ai trouvé plus dol. Je les ai trouvés beaucoup plus vagabond dimensionnel. Parce que. Excusez-moi, il est tard. Non, je les ai trouvés beaucoup plus profonds en ce sens que voilà, c'était l'expérience d'un rôliste virtuel dans notre univers du poulpe. Donc c'est pour ça que je vais essayer de favoriser. Là, je suis toujours sur la V2 de TOC. C'est pas aussi compliqué que MapTools, mais un peu. Mais de faire des ponts, par exemple, voilà, ça serait, enfin, les gens seraient, je pense, très intéressés de voir flaguer AngelDust comme étant un joueur de JDR virtuel. Ils auraient peut-être plein de questions à lui poser. Quel que soit le moment, quoi. Donc, bon, on va pas faire le tour sur. On va refaire juste un tour sur les plus. Oh non, c'est chiant. Non, c'est. On les a pas mal balayés. Et puis, on va tous se répéter. Je suis en train de regarder si on n'a pas. Il n'y a pas des choses.
On va peut-être demander à justement celui qui n'a pas fait de jeu de rôle virtuel s'il a des questions.
Ouais, bien joué. Joli coup, Baron. Tout à fait. La zap.
Après, oui, alors c'est moi. je crois que là, vous avez quand même pas mal balisé les questions qu'en tout cas moi je me posais, à la fois sur les termes techniques et sur les termes sur les expériences.
D'accord.
Ça me semble relativement clair en fait maintenant.
D'accord. Parce qu'il faut pas, ouais, faut vraiment pas hésiter. Après, t'as les forums, tout ça, mais le but de ce podcast, c'est de se dire, il y a des gens qui vont se taper ça pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, il faut qu'ils sachent que c'est, sinon on a raté notre coup.
Moi, le premier. Non, je dirais que ce qui me semble assez évident. Enfin voilà, moi, j'ai de l'informatique et c'est pas trop mon truc.
C'est de la boulette.
D'après les explications que vous donnez, je pense que voilà, après, il faut un peu s'immerger, il faut télécharger un ou deux logiciels, voir ce qui convient le mieux, tester un peu. Je pense que ça a pas l'air surhumain comme effort.
Je pense qu'il faut, ce qui est important, c'est de tester. Ça veut dire d'essayer de faire un petit one shot test comme ça, même si ça marche pas, les premières expériences marchent peut-être pas bien parce qu'on est peut-être pas bien tombé, de tester deux ou trois fois. Voilà. Faut pas se faire une idée d'une première expérience. Ça peut, moi j'ai eu la chance, ça s'est très bien fonctionné dès le début, donc je suis tout dans mon gros système, mais ça peut très bien être très moyen, comme ça peut être dans n'importe quelle partie de jeu de rôle. Donc voilà, je pense qu'il faut tester différentes configurations, il faut tester simple au début, et ne pas hésiter à poser des questions, quoi. Même si la période estivale est plus limitée, mais vas-y.
Quand on tombe sur une table de sa génération, c'est plus facile déjà. Bien cibler la table sur laquelle on va se positionner, le type de jeu sur lequel on a envie de jouer. À la limite, on est sur un forum, rien n'empêche de cliquer un pour savoir quels sont les autres postes qu'a posé le maître de jeu. Enfin, on n'est pas des gens... on peut aller à son nez. L'idéal, c'est de tomber sur une bonne table, mais ça commence par se sélectionner. On peut envoyer un message privé au maître de jeu pour s'assurer qu'il répond dans le sens où on a envie, demande ou autre. Ça donne des indices qui permettent déjà de sélectionner les gens qu'on va rencontrer. Bien souvent, ça devient des amis, d'ailleurs.
Bah oui, ça c'est tout à fait possible. Et ce que je dirais, c'est qu'en plus, le JDR virtuel te permet d'être spectateur sans du tout gêner la partie. Et ça, c'est une possibilité avant peut-être de faire un one shot. Tu peux tout à fait écouter une ou deux parties.
Voire même aller regarder des vidéos sur YouTube. On a des vidéos, des captures vidéo sur YouTube de parties.
Celle des masques de Bouga, elle est quasiment intégralement sur YouTube. Alors par contre, il y a un truc auquel ça me fait penser. C'est le choix des règles quand on est gardien ou maître ou quoi que ce soit, mégalomane derrière un écran en carton en jetant des polyèdres en plastique, c'est que pour moi toutes les règles ne sont pas faites pour le JDR virtuel. Je m'explique, je suis un grand fan de RuneQuest et je trouve le système le DK très intéressant. Eh bien, très honnêtement, si je joue pas encore en tant que gardien sur JDR virtuel et si je lance pas des one-shots Cthulhu, c'est parce que je suis en train un peu de voir quelles règles je vais utiliser. Parce que, par exemple, pour moi, soyons clairs, dans la partie Hawkmoon qu'on a faite, les règles étaient trop compliquées. On a pris les règles de RuneQuest et on a passé 2 heures à faire un combat. 2 heures. Deux. 2 heures à faire un combat où, voilà, le problème, c'est que quand vos joueurs ne reprennent le focus que quand vous leur parlez directement, si un tour de jeu, ça peut prendre des plombes pour chaque joueur, c'est-à-dire que si vous avez 4 joueurs, vous allez les laisser, si ça dure 2 minutes pour chaque joueur, 8 minutes sans lui parler. Enfin, 6 minutes, pardon. Donc pour moi, le choix du système de jeu, qui doit être dynamique, qui doit laisser l'opportunité, parce que autant, quand on est physiquement autour d'une table, il peut y avoir un gros, un fort, celui qui parle fort, celui qui parle bas, celui qui est moche, celui qui pue, et il va se créer une hiérarchie de ceux qui vont parler en premier et tout ça. Autant quand on est avec un micro simplement, et le plus en chat hein, bien sûr, cette hiérarchie peut être chamboulée. Ce qui fait que pour moi, c'est le moment ou jamais de donner l'opportunité à tous les joueurs, qu'ils soient timides ou pas timides, de prendre la parole. Et ça, pour moi, c'est pas possible si on a un système trop lourd, trop engoncé dans les règles, ou alors si trop réaliste, ou quoi que ce soit. Ça veut pas dire un système narrativiste à la Mormon's Boob, hein. Ça veut dire que le système doit être fluide. C'est-à-dire que rien qu'une personne qui a besoin d'un PDF de 2 pages pour avoir sa fiche de perso, c'est mort. Parce que tu ne peux pas avoir ta fiche de perso sous les yeux en même temps. Et des petites choses comme ça, pour moi, alors après, c'est uniquement ma vision, c'est pas du tout parole d'évangile, comme toujours sur TOC, hein, on donne que nos visions, mais pour moi, je sais pas ce que vous en penserez, je vais vous laisser la parole, mais pour moi, il faut que ce soit des règles assez fluides, simples, et surtout laissant la part belle à aux personnes qui veulent parler. Pour moi, en jeu de rôle, celui qui ferme sa gueule, on l'aide pas, celui qui ouvre sa gueule, on l'écoute, et s'il dit des choses intéressantes, on l'aide. Je sais pas ce que vous en pensez.
Alors, je voudrais juste nuancer ce que tu racontes. C'est vrai qu'il faut des règles simples et dynamiques, d'autant plus en virtuel. Mais les outils que t'offre JDR virtuel te permet de t'affranchir de certaines difficultés. Notamment, je pense au framework de Maptool pour l'appel de Cthulhu fait par Booga, qui gère les distances. Les distances, par exemple, si tu es très loin de ta cible ou plutôt proche, bah t'as des bonus malus qui sont gérés directement et t'as juste besoin de cliquer sur un bouton et t'as tous les calculs qui sont faits. Donc, avec suffisamment d'investissement de la part du MJ et de la part de la personne,
tu peux gommer cette difficulté.
Tu peux gommer effectivement cette difficulté et le joueur au final n'a plus qu'à cliquer sur un bouton en disant je fais un G2. Et puis tout le reste, c'est dans la boîte noire.
D'accord. De votre côté, les autres, vous en pensez quoi de l'adéquation des règles avec les parties de JDR virtuelles ?
De toute façon, je trouve que les règles, ça bloque un petit peu trop. Enfin, je suis pas un narrativiste, hein, mais voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à, comment dire, faut pas hésiter à, en effet, à favoriser des règles un petit peu fluides, des règles rapides, ou alors, même si ce sont des règles compliquées, voilà, faire en sorte que ça soit intégré dans le rollset, que ça soit géré automatiquement. On a un outil, c'est l'ordinateur. Si en plus le logiciel peut justement aider le MJ à gérer facilement tout ça, tant mieux, quoi. Il y a une petite limitation en effet dans le jeu de rôle virtuel. C'est, alors, désolé, moi les règles c'est pas trop mon truc, donc je connais pas trop, mais je crois qu'il y a un jeu, je sais plus lequel, où on doit utiliser une tour de tanga ou je sais plus comment ça s'appelle, enfin voilà, où des morceaux de bâton, ben voilà, donc ça va être vachement plus dur en jeu de rôle virtuel, hein, voilà. Donc voilà, c'est pour ce type de jeu-là. Par contre, il est possible avec certains outils, je crois, Maptool, je crois qu'il peut faire ça, même peut-être Fantasy Grand aussi, gérer des cartes.
Tout à fait, ouais. Roll20 le fait aussi.
Voilà. Donc, pour CV de joueurs, des choses comme ça.
Donc ça, voilà, ça c'était peut-être pas évident au début, mais maintenant, comment dire, il y a beaucoup de logiciels qui commencent à pouvoir utiliser ce système-là. Ouais. Voilà, enfin voilà, c'était...
D'accord.
Il y a de logiciels qui automatisent les jets et qui se révèlent très pratiques sur des jeux qui utilisent des règles un petit peu ardues ou plus stratégiques que d'autres.
D'accord.
Après, c'est vrai que le souci... c'est que un temps mort est vécu, je pense, au double par le joueur qui est à l'autre bout derrière son écran, et que donc il faut vraiment que le maître de jeu connaisse son module. L'improvisation qui part de Traviol, ainsi que les temps morts de la part du maître de jeu quand on pose une question, sont fatales. Pour le groupe de joueurs derrière, c'est clair que ça pose un truc. Il faut vraiment, quand on se lance en tant que maître de jeu là-dessus, être au taquet scénario et sur son module.
Après, en tant que joueur, je pense
que c'est vraiment très cool. Il suffit d'arriver, d'allumer l'ordi et de se foutre les pieds sous la table. Et c'est le maître de jeu qui se tape tout.
Ouais, c'est vrai, mais je dirais que ça dépend un peu, mais ce qui est très juste, c'est que dans ce que tu dis, c'est que par exemple, tout bêtement, vous êtes autour d'une table de JDR classique, vous avez envie de pisser, ben vous allez dire, bon, on fait une pause, hein, parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Là, c'est tout bête. Le MJ fait un tour de table, machin commence à régler les actions des uns et des autres, ça prend des plombes, bon ben voilà, je vais prendre cette opportunité-là pour aller boire un coup, et ben si l'action reprend à ce moment-là, je suis pas là. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, avant de se sentir à l'aise, faut vraiment, c'est pour ça que moi c'est ce que je vais faire comme MJ, c'est avoir des règles qui me vont bien, utiliser à minima l'outil pour partager les choses juste et voir ce que ça donne. Je fais une ou deux parties, ça marche pas, je module pas. De toute façon, j'ai toujours tendance à demander ce que pensent mes joueurs à la fin des parties. Donc comme ça, j'aurai un bon aperçu. Mais voilà, y aller par strat, quoi. L'intérêt, c'est que par rapport à la table de jeu de rôle classique, on peut pas y aller par strat. Les gens, ils arrivent, ils s'installent autour. C'est plus difficile. À la limite, si vous pouvez sortir le tableau Velleda la deuxième séance, puis le rétroprojecteur la troisième séance, sortir la chaîne IFI la quatrième séance. Mais là, en tant que JDR virtuel, c'est très facile de, au début, partager juste une carte et puis la tranche DPJ, puis passer à la carte avec les aides de jeu, des images d'ambiance, avoir une galerie de PNJ. J'avais trouvé ça très sympa dans la partie de... Merde. Là, je vois quoi. À Oakmoon. La partie d'Oakmoon, c'est qu'il avait récupéré des têtes de tous les PNJ, et ça c'est vraiment excellent, parce que même si on sait bien écrire et tout ça, si le mec il a un gros pif et qu'on est obligé de le décrire, quand on le verra à l'écran, on dira ah putain c'est gros pif, enfin voilà, on est obligé de faire des blagues, hein. Mais disons que ça, ce qu'on disait pour l'immersion, ça favorise vraiment vraiment beaucoup de choses. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Avez-vous des choses, des questions, des choses comme ça en plus? Je sens qu'il est quand même déjà 23. Oh la vache,
il est même minuit, ouais. Juste par rapport à ce que tu disais, par rapport à celui qui se barre pour aller aux toilettes, il revient, bon, bah, il a loupé une partie. En jeu de rôle virtuel, mais en mode texte, on n'a pas ce problème-là. Parce qu'on peut retrouver ce qui a été dit, enfin ce qui a été écrit.
Très juste.
Et comme on dirait la plupart du temps, le logiciel rôlistique il le fait, on a la même map tool, hein, on a la trace, on peut sauvegarder quoi tout ce qui a été écrit, c'est-à-dire on peut avoir la trace de toute la campagne, enfin en tout cas de tout le scénario quoi.
Ah ouais, pour celui qui veut conserver c'est un plus. Ouais.
Voilà, c'est pour celui qui veut se rappeler ce qui a été fait, celui qui veut conserver, enfin, voilà. Et ça, c'est un plus non indéniable. Enfin, c'est indéniable. C'est vraiment un petit bonus pour le MJ ou même pour le joueur après, s'il veut revoir ce qui s'est passé.
Et en poussant plus loin de ce que tu dis, chronomancien, le côté top, c'est que par exemple, quand Bouga enregistre les parties qu'il fait quand il joue à l'appel, c'est super intéressant parce que avant, quand on jouait au jeu de rôle que sur table pour expliquer ce que c'était que le jeu de rôle, on galérait notre race. Là, on lui dit vas-y. Sur YouTube, tout le monde connaît YouTube, hein, tout le monde a vu le Gangnam Style. Tu vas sur le même endroit, YouTube, tu tapes machin JDR en ligne, masque de Naruto-tep, et là, visuellement, tu vois ce qui se passe. Donc oui, franchement, c'est pour l'explication et pour l'émancipation de notre loisir, c'est encore mieux, quoi, parce que on n'a pas l'interview de taré, les cheveux longs, avec le t-shirt Megadeth, et puis qui sentent les pieds avec leurs grosses docks. Là, on n'a que des gens qui paraissent tout à fait courtois au bout du fil.
C'est plus soft, ouais, c'est,
bonsoir.
C'est plus politiquement correct.
Donc on crédibilise en plus notre média, et on est souvent dit geek dans le milieu du jeu de rôle, mais là, c'est plutôt une aide, je pense. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je ne vous remercierai jamais tous assez d'avoir participé à ce podcast. On était quand même 6 participants. Et ça, c'est cool parce que, mais il n'y en a jamais autant. Sauf ceux que je payais d'habitude. Bah pour tous ceux qui le verront soit en live, ah si on a encore un lecteur live qui ne s'est pas connecté directement. Donc, merci d'avoir suivi ce podcast sur Talk. Merci à JDR Virtuel qui a quand même ramené 5 personnes, c'est ça? Je crois que vous étiez 5 de JDR Virtuel, je crois. Bah oui, vous étiez 2 de JDR Virtuel sauf
sauf celui qui en a pas fait. D'accord.
Sauf la Zap. Mais il vient de s'inscrire pendant le podcast. Donc merci à tous, et puis donc pour tous ceux qui sont sur Talk, n'hésitez pas donc à aller sur les forums de Talk de base pour poser des questions, mais plus particulièrement sur les forums JDR Virtuel ou Virtuel JDR pour poser des questions, pour vous inscrire, pour faire votre première partie en tant que visiteur, poser des questions techniques. Enfin, c'est une communauté qui est en pleine effervescence, j'ai l'impression, et qui le restera pendant un bout de temps, donc c'est très très facile d'avoir des informations. Et très honnêtement, pour se rapprocher de la conclusion, c'est une excellente alternative au JDR sur table. À nos âges, c'est-à-dire au-delà de, je dirais, 25 ans, ou pour les gens qui, pour des raisons ou pour une autre, se déplacent ou sont dans des endroits un peu inaccessibles, c'est une excellente alternative. Ça demande un peu d'investissement, c'est comme tout. Un investissement différent du JDR sur table, je pense. Mais c'est vraiment une excellente alternative et je vais pas non plus mettre mes couilles sur le bio comme on dit, mais je pense que pour ceux qui veulent tester, qui sont tentés, testez-le, vous serez forcément intéressé. Oh, votre diffusion s'arrêtera dans une heure. Ah bah ça vache. Ah bah c'est cool, hein, monsieur Google.
Par contre, est-ce que je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire rapidement?
On en fait une heure, c'est bon.
Donc ouais. Tu dis oui, on est à nos âges, etc. Je tiens à préciser que donc pour ma part, au départ de la vidéo, j'avais dit que je préférais le JDR virtuel au JDR sur table. Pour rebondir donc, j'ai la possibilité de jouer et sur table et sur le virtuel. Et je préfère largement le virtuel pour la simple et bonne raison que lorsque les joueurs vont s'inscrire sur le JDR virtuel, c'est une démarche volontariste.
D'accord.
Alors que dans le club, le club il se réunit tous les vendredis soirs, mettons.
On joue pour jouer.
T'es là, tu joues pour jouer, t'en as rien à foutre. Limite, hein. Je critique.
Ouais, bien sûr, non, tout à fait.
Voilà, t'es là pour jouer, etc. Et je n'ai jamais eu d'aussi bonne expérience de jeu que depuis que je joue au JDR virtuel. Voilà, et c'est uniquement et je veux pas dire que vous êtes tous vieux, hein, mais je suis en dessous de la barre que tu as dit, voilà.
comme quoi
on a de tous les âges, hein, sur le forum, mais je veux dire, on a quand même beaucoup de trentenaires, de quarantenaires, on en voit plus, et puis il y en a qui ont commencé à 12 ans, je crois. Je crois que ça a commencé à 12 ans, mais sinon, partie qui ont 18-20 ans.
Si mon lit, je suis tout à fait d'accord avec toi, et la preuve, c'est que ce soir, on a tous discuté ensemble, comme on le fait très fréquemment sur Talk et sur les podcasts, et on a tous discuté sans savoir nos âges, nos professions, nos origines sociales, race, religion, taille du sexe et tout ça, quoi. C'est le gros côté aussi positif, c'est que. Bon, moi, on sait quelle gueule j'ai.
C'est le côté embêtant.
De toute façon, toi, on sait, Marc-Jean, on sait que t'es un plus âgé et que deux, tu es un fumeur de roulé. J'ai l'oreille très fine.
Salopio.
Un buveur de whisky.
Me déconnecte.
Un buveur de whisky. Donc, écoutez, rien d'autre à ajouter?
J'avais une petite question juste hors sujet. Oui, à Simon Angel Dust.
Oui.
C'est toi qui as fait une petite animation vidéo d'intro au masque sur un fond musical de Blue Velvet. Non?
C'est possible.
Parce que je cherchais des vidéos sur les masques sur le net et je suis tombé sur une intro au masque avec un petit texte que tu récitais, je crois, sur fond de Blue Velvet et j'avais trouvé ça très bon.
Enfin, merci.
Je crois reconnaître ta voix.
Et ben merci beaucoup.
Voilà, tu es déjà prêt pour.
J'en suis flatté.
Si c'est pour partager aussi les talents, parce que le but aussi du JDR virtuel, c'est que la plupart des gens, comme ils partagent leurs plans, leurs idées et tout ça, c'est top, quoi.
À ce sujet, si je peux me permettre, détiens à disposition pour qui veut une adaptation du premier chapitre des masques à Paris, de New York à Paris. Et tout le reste suit. Donc j'ai un PDF, monstrueux à ce sujet pour qui le désire.
Ah bah voilà. Si tu veux le partager sur Talk, je pense que
le joindre plein de... via JDR virtuel. Ouais, sera avec plaisir.
Quand t'as le temps, quand tu veux. Ça t'inquiète pas que ça intéressera okay. pas mal de gens. Bon, messieurs, ah, on a perdu la zap. Je pense que ça y est, Google l'a rattrapé. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé, c'était très sympa. Et puis, je pense qu'avec vos expériences, on a couvert tout ce qui concernait cette partie du JDR virtuel, celle qu'on considère être une table virtuelle. Et puis donc, pour tous les talkers et talkeuses, tous ces gens que maintenant que le petit nouveau est parti, tous ces gens vous pouvez les retrouver sur JDR virtuel, même moi, sous mon vrai pseudo Vonve. Eh bien, je vais souhaiter à tous et à toutes et à tous, aux deux lecteurs qui sont en train encore de regarder à cette heure-là, ça c'est sympa. Je vous souhaite à tous une bonne nuit, et puis peut-être donc le retour de la ZAP. Bah, tu tombes bien, c'était pour le départ, la ZAP. Je vous souhaite une bonne nuit, et puis à bientôt sur TOC, et puis sur JDR virtuel, ou Virtue JDR, ou toute autre communauté, vous pourrez venir jouer. Bonne soirée à tous.
Voilà, merci.
À bientôt.
Au revoir.
Merci. Salut.
Salut.
Au revoir.